Il est tout pile 18h, vous écoutez Europe 1.
Et c'est donc l'homme du déconfinement qui devient l'homme du gouvernement. Jean Castex, nouveau Premier ministre, est en train de prendre ses quartiers à Matignon, passation de pouvoir en cours.
Un homme de droite, haut fonctionnaire, très peu connu du grand public. Pourquoi Emmanuel Macron l'a-t-il choisi, lui ? Large page spéciale avec le service politique.
On connaîtra la composition du nouveau gouvernement dans quelques jours.
Édouard Philippe, lui, quitte la scène et part s'installer à la mairie du Havre.
Je suis contente qu'il soit revenu. Parce que je trouvais qu'il était bien, qu'il était valable. Et puis, il adore le Havre.
Voilà, les Havrais sont contents. Nous sommes sur place. Dans ce journal aussi, la fin du feuilleton sur l'héritage de Johnny Hallyday. Sa veuve, Laetitia, annonce avoir trouvé un accord avec Laura Smet.
Et puis, à peine revenu en classe, déjà reparti. Ça y est, 12 millions d'élèves en grandes vacances ce soir.
Je suis un peu contente parce que je vais rester un peu en vacances. Mais je suis quand même triste parce que je ne peux pas me coller.
La bourse de Paris en recul de 0,8% ce soir à 5007 points.
Bonsoir. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le temps ce week-end.
Eh bien ça s'annonce plutôt pas mal pour demain, c'est le retour du grand soleil sur une grande partie de la France, sauf le nord-ouest avec une nouvelle perturbation qui arrive. Dans le sud, les températures remontent, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Les choses se sont donc accélérées. 9h34 ce matin, démission d'Édouard Philippe acceptée par le président de la République. 12h40, son successeur est nommé. Le nouveau Premier ministre s'appelle Jean Castex. Il a 55 ans, c'est un haut fonctionnaire. Il a déjà travaillé pour Nicolas Sarkozy. Il fut surtout l'homme de la stratégie du déconfinement ces dernières semaines.
Et oui, alors avant de s'arrêter sur son profil et sur le choix d'Emmanuel Macron, allons tout de suite à Matignon.
Claudia Bertram, c'est vous qui êtes sur place. La passation de pouvoir a commencé, Jean Castex est arrivé il y a quelques minutes.
Oui, absolument. Jean Castex est arrivé pile à l'heure dans la cour de Matignon. Il y a donc une demi-heure. Édouard Philippe l'attendait en haut du perron de l'hôtel de Matignon. Les deux hommes n'étaient pas masqués, mais ils ne se sont pas serrés la main. Mesures sanitaires obligent, mais ils se sont fait un signe de la main et se souriaient chaleureusement. On les a vus échanger quelques mots jusqu'à l'intérieur de l'hôtel de Matignon, où ils sont partis s'isoler. Ils y sont toujours, l'ancien et le nouveau Premier ministre, qui échangent certainement sur les dossiers en cours que va récupérer Jean Castex. Texte comme le veut la tradition. Et d'ici quelques minutes, les deux hommes prendront la parole l'un après l'autre. On attend donc les premiers mots du nouveau Premier ministre Jean Castex. Cet après-midi, il a dit mesurer l'immensité de la tâche qu'il attend dans un communiqué publié sur le site de la ville de Prades, dont il était maire.
Claudia Bertram en direct de Matignon. Et bien sûr, vous nous rappelez dès lors que les deux hommes sortent et on les entendra, bien sûr, d'ici 19h probablement.
Alors bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bienvenue dans ce studio. Emmanuel Macron a donc choisi un technicien très peu connu du grand public. Qui est donc Jean Castex ?
Eh bien, c'est probablement, au moment de sa prise de fonction, l'un des premiers ministres les plus inconnus de la Ve République. Jean Castex, 55 ans, originaire du Gers, haut fonctionnaire. Il est un peu rentré dans la lumière à l'occasion de la crise du Covid. C'était le monsieur déconfinement du gouvernement sur proposition d'Édouard Philippe. Une mission réussie, si l'on en croit à l'Élysée. C'est d'ailleurs là qu'il s'est rapproché du président. À l'Élysée, on dit de lui que c'est l'homme de la droite gaulliste sociale. C'est le choix de l'efficacité, de la conviction, glisse un proche d'Emmanuel Macron. Mais concrètement, Jean Castex, il coche surtout beaucoup de cases. C'est le discret maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Il a les bonnes intuitions de l'élu local, me confie récemment une ministre. Mais surtout, c'est un énarque qui connaît parfaitement les arcanes du pouvoir. Secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, c'est un poste stratégique en lien permanent avec Matignon. C'est donc un opérationnel. Enfin, quand vous écoutez les membres du gouvernement parler de lui, sa personnalité pourrait marquer. C'est quelqu'un de très très facile de contact, explique un ministre. Il ne se prend pas au sérieux, il est dans la proximité, c'est fluide, rajoute un conseiller. Ce soir, les Français vont découvrir le petit accent chantant de leur nouveau Premier ministre.
Merci Jean-Rémy Baudeau et Mickaël Darmon nous a rejoint également. Bonsoir Mickaël. Mickaël Darmon n'est pas là, il va nous rejoindre tout à l'heure.
Alors. Voilà, et on le retrouvera d'ailleurs longuement durant les grandes voix à partir de 18h30.
Et donc on parlait d'Édouard Philippe qui va repartir au Havre où il va être installé comme maire dimanche matin. Johanna Chabaz, vous êtes notre envoyée spéciale sur place au Havre. Est-ce que les Havrais sont contents de son retour ?
Oui, tous ceux que j'ai rencontrés sont ravis et impatients de revoir celui qui dit être enraciné au Havre, tellement qu'il a une fois parlé de ses tripes goût au salé. Pour Nadine Havraise, depuis 50 ans, le retour d'Édouard Philippe était une évidence.
Je suis contente qu'il soit revenu. Parce que je trouvais qu'il était bien, qu'il était valable. Et puis, il adore le Havre, parle souvent de la plage du Havre. Il est souvent sur la plage ou on le rencontre un peu partout.
Adrien, 21 ans, décrit lui Édouard Philippe comme son idole. Une admiration finalement renforcée par sa démission ce matin.
Ça prouve qu'il aime quand même beaucoup sa ville parce qu'il a renoncé à un poste beaucoup plus haut placé. C'est quand même quelque chose de très valeureux quoi, de revenir à, au lieu de rester Premier ministre et puis de profiter de tous les avantages.
Mais si les Havrais sont contents du retour d'Édouard Philippe, beaucoup se posent la question de son avenir. Certains lui donnent des ambitions pour la présidentielle de 2022. Ce serait une grande déception pour Myriam.
J'espère qu'il sera effectivement un vrai maire et que ça n'est pas qu'un tremplin. Il a été élu pour être maire, pas pour laisser son premier adjoint prendre le pouvoir d'ici quelques mois ou quelques temps.
En tout cas, les Havrais attendent de voir la suite avec l'arrivée de leur maire en ville, possiblement dès ce soir, et surtout son premier conseil municipal depuis sa réélection dimanche matin.
Johanna Chabas en ligne depuis le Havre pour Europe 1. Je reviens vers vous, Jean-Rémy Baudeau. Pourquoi se séparer aujourd'hui d'Édouard Philippe? On sait qu'il y avait du suspense ces derniers jours. Édouard Philippe, il est populaire. Emmanuel Macron dressait encore ses louanges ce matin dans la presse régionale.
Oui, et d'ailleurs hier soir, il y avait une petite phrase qui a été relue par l'Élysée, comme on dit, entre la première version de l'interview du chef de l'État et la deuxième version qui s'est retrouvée réellement publiée. À la question « Est-ce la fin de l'histoire avec Édouard Philippe ?» Emmanuel Macron avait d'abord répondu « Au contraire !» avant que cette phrase soit gommée par l'Élysée. La réalité, c'est donc effectivement qu'hier soir, Édouard Philippe a bien posé sa démission. Il y a la question des sondages. Certains disent qu'il est trop populaire par rapport à Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron aurait voulu se séparer de lui. La réalité, c'est que c'est peut-être plutôt une question d'orientation politique. Et Emmanuel Macron rentre dans une phase de son quinquennat où il va devoir être déjà quasiment en campagne. Il lui reste moins de 2 ans pour finir son quinquennat, imprimer, comme on dit en politique, imprimer des objets politiques, mettre en place un gouvernement de combat pour mener quelques grandes réformes. Il l'a dit dans la presse ce matin avec le grand âge, la question de la jeunesse, la relance économique, la question de l'écologie. C'est donc qu'il avait aussi besoin d'un Premier ministre plus exécutant, d'un Premier ministre qui prenait un peu moins la lumière. Emmanuel Macron va pouvoir être l'hyper-président qui sera dans la lumière, qui sera en campagne jusqu'à la fin de son quinquennat. Et comme me confiait un proche d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, on va entrer dans un septennat. Preuve que certains imaginent que grâce à ça, il sera réélu.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Alors aujourd'hui, les conseils municipaux, Sébastien, ont commencé un peu partout en France à élire les maires.
Et Anne Hidalgo, par exemple, confirmée dans son fauteuil à Paris, elle a nommé une équipe de 37 adjoints. À Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic a revêtu l'écharpe tricolore et promis de décréter l'état d'urgence climatique pour la ville. Et puis à Marseille, alors rien n'est réglé, suspense total. Conseil municipal demain, Samia Ghali demande à être première adjointe en échange de ses voix si elle les offre à la gauche. Pas question de céder au chantage, a répondu aujourd'hui Michel Rubirola, qui n'est toujours pas assurée d'être maire, bien qu'elle soit arrivée en tête.
L'actualité économique maintenant. La direction d'Air France confirme son plan, 7500 postes supprimés.
Les salariés de la filiale régionale HOP se sont rassemblés aujourd'hui devant leur siège à Nantes. Pour eux, les effectifs seront réduits de 40%. Et puis l'inquiétude en Moselle. Le groupe Mercedes va vendre l'usine qui fabrique la Smart à Ambar. Le site emploie plus de 1400 salariés. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle le constructeur allemand à garder toutes les options ouvertes.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Crête.
Et à suivre dans cette édition de 18h, l'épilogue de la bataille sur l'héritage de Johnny. Un accord trouvé entre Laetitia et Laura Smet.
Et puis cette fois, l'école est bien finie. Après 2 semaines de classe, c'est déjà les vacances.
18h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Ça y est, enfin l'épilogue. 2 ans et demi après la mort de Johnny Hallyday, la bataille pour son héritage prend fin.
L'avocat de sa veuve Laetitia Hallyday annonce un accord définitif avec Laura Smet, qui avait été écartée du testament, tout comme son frère David. Du coup, Salomé Legrand, c'est clair, ce soir, cela met un point final à ce long feuilleton.
Et oui, à cette âpre bataille, même sur les fronts judiciaires et surtout médiatiques, image contre image, une veuve traînée dans la boue contre des enfants abandonnés et meurtris. Les premiers rounds, on s'en souvient, s'étaient joués devant le tribunal de Nanterre, juridiction compétente pour la résidence de Johnny à Marne-la-Coquette. Des audiences à rallonge durant lesquelles les aînés plaidaient que l'idole des jeunes était un pur produit français et donc que notre droit des successions l'empêchait de les déshériter. En face, les avocats de Laetitia le juraient plus américain que jamais. Premier revers pour la veuve du rocker. En mai 2019, la justice française se déclare compétente dans une décision sans appel qui est carte quasiment tous les arguments de son clan. Après cet échec, Laetitia Hallyday avait changé d'avocat fin juillet dernier et quasi un an après annonce donc ce soir un accord définitif avec Laura Smet. David Hallyday, lui, ne demandait qu'un droit de regard sur l'œuvre, mais surtout pas d'argent qui aurait pu le rendre débiteur du fisc. Il n'a donc pas participé aux négociations du côté de Laura Smet. Personne n'accepte pour l'instant de préciser le contenu exact de l'accord qui met fin à la bataille judiciaire.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et on va retourner à Matignon, où nous vivons presque en direct, en tout cas en fil rouge, cette passation de pouvoir qui est en cours. Édouard Philippe qui cède la main à son successeur, le nouveau Premier ministre Jean Castex. Les deux hommes sont sur le perron de Matignon.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. C'est une charge assez lourde. Mais connaissant votre intelligence, votre connaissance fine du pays, votre sincère attachement à l'État, connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez, face à des décisions qui sont parfois difficiles, prendre les bonnes décisions.
Édouard Philippe, il y a quelques instants sur le perron de Matignon, aux côtés de son successeur, le nouveau Premier ministre Jean Castex.
Voilà, il a encore la parole et évidemment on vous fera écouter Jean Castex dans les prochaines minutes. Édition spéciale en quelque sorte ce soir, actualité politique oblige, on sera avec les grandes voix au grand complet à partir de 18h30 bien sûr. Alors à peine revenu en classe, c'était il y a deux semaines, on s'en souvient, c'est déjà l'heure des vacances pour les écoliers.
12 millions d'élèves sont en congé ce soir après des mois où l'école à la maison a plutôt été la règle. Angèle Châtelier, vous êtes allée à la sortie d'une école du 15e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est ce soir l'euphorie des vacances pour les enfants ?
Eh bien, peut-être un peu moins que d'habitude, car les élèves n'ont pas profité très longtemps des copains, comme Louise qui se languit déjà d'eux.
Je suis un peu contente parce que je vais rester un peu en vacances, mais je suis quand même triste parce que je ne peux pas voir mes copines. Il y en a quelques-unes que j'ai leur numéro, mais on ne pourra pas se voir en vrai.
Et puis même si ce n'était que deux semaines, pour les parents aussi, c'était une bulle d'air de ne plus avoir les enfants à la maison.
On sentait qu'ils s'ennuient un petit peu, donc retrouver leur maîtresse, leurs copains, c'était important. On marque la fin d'une année et puis on se prépare pour le début d'une autre.
Et entre-temps, il y a les vacances. Même si les destinations sont plus limitées que les années d'avant.
Je vais au Mexique ? Non, je vais pas au Mexique, c'est juste une blague.
C'est une blague parce qu'on peut pas.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est l'occasion de passer des moments en famille.
Je vais aller chez mes tantes, ensuite je vais aller chez ma marraine. Et peut-être mon tonton va venir me chercher pour aller à Disney.
Le programme pour la plupart des enfants de l'école Gutenberg pour cet été, jeux vidéo, colo et quelques après-midi avec les copains, avant de reprendre l'école et pour certains, faire sa grande rentrée en 6e.
Rentrez bien, à l'année prochaine.
Voilà, rendez-vous à la rentrée Angèle Châtelier dans une école parisienne. Et tout à l'heure à 19h, on sera au bout de la route des vacances, dans les Bouches-du-Rhône, au bord de la mer, où les vacanciers, pour le coup, là, sont vraiment attendus de pied ferme après ces mois difficiles.
Oh combien. Merci Sébastien. On se retrouve à 18h30, bien sûr, avec une large part consacrée à cette passation à Matignon aujourd'hui même. Anissa, du côté du temps, un ciel gris dans le nord-ouest.
Et oui, effectivement, à cause d'une légère perturbation océanique qui vous apporte dans le nord-ouest des nuages. Quelques averses en bord de Manche. D'ailleurs, sur le quart nord-ouest des Pays de la Loire à la Champagne, en passant par la région parisienne, la Normandie et les Hauts-de-France, eh bien demain, le ciel est couvert et vous aurez comme ça tout au long de la journée quelques petites averses partout ailleurs. Après la dissipation des nuages matinaux, le soleil s'impose et la journée sera assez belle. Dans le sud, attention, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours très fort, mais les températures, elles remontent légèrement, 10 à 15 degrés demain matin jusqu'à 21 en bord de Méditerranée. Puis dans l'après-midi, c'est encore assez frais dans le nord, avec 19 à Brest, 21 à Rennes et Nantes, 23 à Aurillac et Niort, et puis 24 pour Paris. Dans la moitié sud, ça grimpe un peu, vous allez le sentir demain, avec 26 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 28 à Strasbourg et Nice, 30 à Valence, 33 à Montpellier, 34 à Nîmes. Ça remonte, on en avait besoin. Et vous savez pourquoi, Nathalie ? Parce que le mois de juin a été, pour le 13e mois consécutif, le mois le plus chaud de ces 20 dernières années. Ouais. Voilà, donc on est sur une série de mois très très chauds. Ouais. Là, on a une petite baisse début juillet, ce qui est normal en début d'été. Mais demain et la semaine prochaine, c'est le retour des vacances et de l'été.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Et oui, avec cette édition spéciale ce soir, passation en cours à Matignon. Jean Castex succède à Édouard Philippe qui va rejoindre le Havre pour y occuper la mairie. Tout a commencé ce matin à 9h34 et puis à 12h40, cette démission acceptée par le président de la République Emmanuel Macron. Quant à Jean Castex, 55 ans, ce haut fonctionnaire qui a déjà travaillé avec Nicolas Sarkozy, on vous dit plus sur son profil, évidemment, avec les grandes voix notamment qui vont nous rejoindre dans un petit instant et qui sont parfaitement renseignées, vous verrez. À tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et une grande partie de votre journal ce soir consacrée à cette passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex. Les grandes voix, c'est dès maintenant jusqu'à 19h avec Catherine Ney, Michel Cottam, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue, on a du temps ce soir pour évidemment revenir sur cette passation de pouvoir. On est en cours là à Matignon avec les bons mots évidemment d'Édouard Philippe, de Jean Castex qui vont se succéder, s'enchaîner. Soyez bons, a dit Édouard Philippe à Jean Castex. Ils se connaissent bien, hein, il faut quand même le préciser. Voilà, tout s'est accéléré aujourd'hui et les choses se font à l'heure qu'il est. On va juste situer ce haut fonctionnaire de droite, c'est Jean Castex, maire Les Républicains de Prades dans les Pyrénées-Orientales et proche de Nicolas Sarkozy, qui va donc s'installer à Matignon désormais. Michel Cottat, vous en avez vécu des passations de pouvoir. Celle-ci, elle ressemble aux autres, bien sûr sous plein d'aspects,
elle ressemble
mais quand
aux
même.
Autres. Celui qui sort a l'air toujours d'être soulagé de sortir et à la fois on voit bien son émotion et quand même le regret qui perçait quand même dans la voix d'Édouard Philippe. Mais enfin, il a fait bonne figure. Celui qui arrive et surtout qui est inconnu a toujours l'air modeste et dit « je fais aussi bien, j'essaierai de faire aussi bien que vous ». Oui. Moyennant quoi, là, c'est une, on attendait cet surmaniement lundi matin. Donc manifestement, les propos d'Emmanuel Macron aux journaux de province ont hâté les choses. Et au fond, moi, j'ai eu l'esprit allumé lorsque j'ai vu les compliments que faisait le président à son Premier ministre. Là, je me suis dit, voilà,
c'est peut-être une manière de le remercier
dans tous les sens du mot, d'ailleurs.
Oui, et voilà. Alors, Mickaël Darmon... Et Édouard Philippe, Emmanuel Macron, juste pour revenir, on a cru que c'était un duo, un vrai duo, uni. Ils se sont parlé hier soir, hein, donc jusqu'au dernier moment. Et puis les choses se sont accélérées vendredi, 9h31.
Oui, en fait, c'est un duo, parce qu'on a bien voulu nous le présenter. C'est vrai que tel quel, et que les deux personnalités ont été très élégantes entre elles, très loyales, n'ont jamais raconté leurs désaccords, qui ont été fort nombreux durant leur collaboration, et allant même des temps de crescendo. Et le dernier clash, en fait, entre les deux, c'est lorsque Édouard Philippe a dit à Emmanuel Macron qu'il ne gouvernerait pas sous le contrôle d'une instance, parce qu'il a détesté la manière dont Emmanuel Macron a fait de la Convention citoyenne une instance officielle d'alerte qui placerait le gouvernement sous contrôle. Et ça, c'était une première chose. Et deuxièmement, il lui a également dit que le quoi qu'il en coûte sans limite, c'était pas possible. Et il a mis en scène, effectivement, cet avertissement qu'il avait donné dans Paris-Normandie quand il a dit « Le président sait ce que je peux faire et sait ce que je ne peux pas faire ». Et devant la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a démontré tout ce que Édouard Philippe ne pouvait pas faire. Et à partir de là, les dés étaient jetés.
On accueille dans l'intervalle Catherine Ney. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Catherine, vous nous avez rejoint. Évidemment, je vais vous donner la parole dans une petite seconde. Frédéric Dabi, Jean Castex, qui quand même est un homme de droite, c'est important de le préciser, qui a appelé directement en étant nommé Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est un homme de droite. C'est d'abord un homme inconnu des Français. Complètement inconnu ou presque. Hein. On a déjà eu des chefs de gouvernement peu connus, Raymond Barre en 1976, voire Georges Pompidou par le passé. Mais ils avaient été ministres, ils avaient été proches du président. On a eu deux élus locaux en 2012, Jean-Marc Ayrault et Édouard Philippe, peu connus également, des personnes pas intéressées par la vie politique. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Mickaël, c'est extrêmement intéressant sur ces informations qui s'inscrivent en décalage avec ce que nous ont dit les Français dans toutes nos enquêtes pendant 3 ans, où ils ont eu le sentiment qu'on a eu un duo, un tandem extrêmement homogène, extrêmement proche. On n'a pas eu des propos sur d'éventuelles tensions comme on en avait eu sous Manuel Valls et François Hollande, sous François Fillon et Nicolas Sarkozy. C'est clairement, il y a sans doute un effet de surprise et un risque d'incompréhension qu'Emmanuel Macron va devoir gérer.
Alors, on écoute là, parce que la passation de pouvoir est en cours, et l'émotion d'Édouard Philippe, Catherine Ney vous l'a commenté.
Il vous appartiendra, monsieur le Premier ministre, désormais de continuer à servir la France. Vous la servez depuis bien longtemps. C'est une belle responsabilité. Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bon. Et comme on dit chez moi, bon vent.
Catherine Ney, je demandais à Michel Cotta cette passation de pouvoir, parce que vous en avez couvert, vous aussi Catherine, des passations de pouvoir. Celle-ci, à la fois, elle ressemble à tant d'autres. Et puis, j'imagine qu'avec les particularités de ces deux hommes, ils se connaissent, avec le parcours de chacun, qu'est-ce qu'on en retire ?
Oui. Ben oui, à chaque fois, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a une passation de pouvoir, le Premier ministre vient sur le perron, remercie tout le monde, et il y a tout le personnel de Matignon qui pleure. Là, certains avaient des masques, c'était moins visible, mais il y avait une vraie, véritable émotion, parce que la sienne est grande aussi. Et j'ai trouvé qu'il a remercié, d'ailleurs avec beaucoup de chaleur, y compris ses ministres, alors que ses ministres se plaignaient de ne pas toujours être remerciés chaleureusement. Et là, il a trouvé, avant de partir, cette chaleur envers les députés, en disant, mais je vous aiderai. Ça veut dire, quand on parle des rapports entre le Premier ministre et le Président, même, le Président lui a confié une mission qu'il a acceptée, c'est-à-dire de régénérer, de réunir la majorité, alors que franchement, ce n'était pas quand même un job qu'il aimait faire. Hein.
Bon. Oui, il ne l'a jamais fait.
Mais si, à l'UMP, il a créé l'UMP avec Juppé. Mais là, c'est réconcilier des gens qui, dans une majorité, ne s'entendaient pas. Mais ça veut dire qu'il va préparer, et il fait ça pour aider. On se demande si le Président l'a piégé en lui demandant ce service, ou si, en réunissant la majorité, en réussissant à ce qu'elle s'entende, après tout, ça pourrait lui servir le cas échéant un jour. Est-ce qu'il va se servir lui-même ? Vous voyez, parce que pour beaucoup de gens, vous voyez, le départ du Premier ministre, 57% appréciaient le Premier ministre. Ah oui. Voulaient qu'on change de politique, mais pas de Premier ministre. Ouais. Ne vont pas comprendre. Et moi, je veux dire que dans l'interview qu'a donnée le Président
dans la pécuaire,
il n'explique pas pourquoi il veut changer. Il dit qu'il faut qu'il y ait une nouvelle équipe. Et alors, il couvre de fleurs un Premier ministre. Et on sait depuis De Gaulle, depuis le 30 mai 68, que quand un président couvre à ce point, dire qu'il a, ce type est formidable, c'est que les fleurs sont des chrysanthèmes.
On va parler de la mission qui lui a confiée, on explique, Michel Cotta, juste, mais Emmanuel Macron a confié donc à Édouard Philippe la mission de reconstruire la majorité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est une offre acceptable, par ailleurs ?
Non, je ne sais pas si c'est une offre acceptable, mais c'est vrai que ce que lui reprochait, en tout cas, une partie groupe parlementaire de la République en Marche, c'était justement de ne pas avoir l'empathie nécessaire avec eux. Hein, c'était notamment ce que reprochait le président du groupe. Et donc, on voyait bien qu'il y avait quand même, qu'il ne faisait pas partie de la République en Marche. Il n'a jamais consenti à le faire. Ce qui est quand même... Et ensuite, on ne peut pas dire que dans les relations avec le MoDem, ça aurait été particulièrement facile. Parce qu'enfin, on le sait bien que François Bayrou était hostile au maintien d'Edouard Philippe.
Il était un point de crispation, de très bonnes relations avec Marc Fesneau, qui est du MoDem.
Ce que je veux dire, c'est une mission très difficile. Oui, c'est une mission très difficile pour un Premier ministre dont on pense quand même qu'il ne l'a pas fait ou qu'il n'a pas pu le faire.
Alors, on se reparle dans un petit instant. Qu'est-ce que ça veut dire que cette mission, un acte de confiance ou de verrouillage ? On y revient. On revient aussi sur, évidemment, les succès d'Edouard Philippe. Et puis les attentes autour de Jean Castex, avec vous tous dans ce studio jusqu'à 19h.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Jean Castex s'installe à Matignon. Le nouveau Premier ministre a été accueilli par Édouard Philippe il y a une heure maintenant pour la passation de pouvoir. Il vient de s'exprimer sur le perron. Écoutez.
Aujourd'hui, ainsi que l'a décidé le président de la République, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre. Elle est très largement dictée par un contexte lui-même nouveau. Un contexte pesant, un contexte difficile. La crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle, est déjà là. Et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe.
Jean Castex, le nouveau Premier ministre, qui se pose donc en rassembleur à Matignon. Dans le journal de 19h, nous serons dans son fief, à Prades, la ville dont il est maire dans les Pyrénées-Orientales. Jean Castex, 55 ans, haut fonctionnaire, peu connu. Il a été ces derniers mois en charge de la stratégie du déconfinement. Édouard Philippe, lui, vient de quitter Matignon à l'instant. Il passe la main après 3 ans en fonction et il rejoint Le Havre où il sera installé comme maire dimanche. Quelques réactions politiques ce soir. Christian Jacob, chez Les Républicains, évoque un virage technocratique pour Olivier Faure au PS. Le président confirme son cap. Le jour d'après sera de droite, dit-il. Et puis Xavier Bertrand, dont Castex fut le directeur de cabinet à l'époque au ministère de la Santé, lui salue ses qualités.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. À 19h, on y revient. On entendra évidemment l'actuel Premier ministre et son prédécesseur, Anissa, du côté du temps. Toujours gris dans le Nord-Ouest.
Oui, exactement. On aura du beau temps pour presque tout le monde demain, sauf sur le Nord-Ouest, vous le disiez, Nathalie, avec sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, une perturbation qui arrive et qui va vous apporter des averses tout au long de la journée, des températures stationnaires le matin avec 10 à 15 degrés jusqu'à 21 dans le sud. Et puis ça monte sur la moitié sud demain après-midi avec 26 à Bordeaux, 28 à Nice, 30 à Valence et 34 à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix ce soir jusqu'à 19h dans cette actualité politique chargée. Vous êtes entourée, Nathalie, de Catherine Ney, Michel Cotta, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Et oui, des grandes voix en version spéciale parce que l'actualité oblige. Ça y est, Édouard Philippe a quitté Matignon. On vous fait suivre évidemment les événements minute par minute. Les deux hommes, Jean Castex et Édouard Philippe, ont évidemment échangé. On va revenir sur les, à la fois les éléments de langage et puis à la fois les petites phrases beaucoup plus naturelles qui ont été dites, notamment Mickaël Darmon, quand Édouard Philippe, l'ex-premier ministre désormais, lui dit soyez bon. Il lui dit bon vent, mais il lui dit aussi soyez bon.
Oui, parce qu'en fait, c'est une blague à la Édouard Philippe, parce qu'il faut savoir que pendant le confinement, monsieur déconfinement, qui était donc Jean Castex, a mis sous pression l'ensemble des ministres. Et lorsqu'ils ont dû chacun remettre leur plan de déconfinement prévu pour le 11 mai, il a été, dans une réunion ou deux, extrêmement sévère, en parfois renvoyant des ministres, en leur disant « mais c'est n'importe quoi, c'est pas bon, refaites-le ». Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a entendu les grincements de dents au sein du gouvernement contre Jean Castex, en disant « mais pour qui se prend celui-là ? Il est déjà vice-premier ministre ». Parce qu'en fait, il est... Et quand on l'a entendu, on comprend. Il est assez sûr de lui quand même. Pour un techno qui rase les murs, c'est pas vraiment le cas. Il est aussi totalement élu. Il sait ce que c'est que la politique. Et donc, il y a aussi ce petit rappel que certainement lui a fait de manière subliminale, Édouard Philippe.
Frédéric Dabi, il y a cet aspect-là. Et puis, je voudrais qu'on aille aussi sur le discours, enfin sur la prise de parole de Jean Castex dans un instant. Cette crise qui s'installe, il l'a dit, il se pose aussi en rassembleur. Il a été très carré dans sa prise de parole. Très évidemment, j'allais dire oui, droit dans ses bottes.
Oui, droit dans ses bottes, ça rappelle certains de ses prédécesseurs. Mmh. C'est vrai que c'est un alliage, Jean Castex. Il est très en même temps. C'est le Jean Castex haut fonctionnaire habitué au rouage de l'État, d'où cette mission sur le déconfinement, mais aussi un élu local, un maire d'une petite ville. Il sera techno et territoire. Ce qui est frappant, c'est au-delà des remerciements et des hommages à Édouard Philippe, c'est une nouvelle étape s'ouvre. C'est extrêmement net. On est sur une rupture avec la période précédente. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ne sont absolument pas dans cette rupture-là. Ils voient la crise économique arriver. N'oublions pas que Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy en 2012, voire Giscard d'Estaing en 80, va être un président qui va finir son mandat dans une crise intense. Et là, les Français vont lui demander des résultats. Reste à nourrir et à légitimer cette nouvelle étape. Je pense qu'il y a un risque, je le redis, d'incompréhension très forte de la part des Français.
Oui, mais on voit bien Michel Cotta.
On voit bien que Castex dit pourquoi il y a un changement. Il dit il y a un changement parce que justement la période qui arrive est une période complètement différente. Et ça, peut-être les Français peuvent davantage le comprendre. Ils savent, on leur dit qu'il y a une crise économique, qu'il y a une crise sanitaire. Mmh. On leur dit assez. Maintenant, pour commencer à Matignon, je veux dire, on a envie de lui dire effectivement bon vent parce que ça ne va pas être de tout repos. Et je trouve que c'est vrai que Castex, qui a beaucoup fréquenté les personnalités de droite.
Hein, il était ami. Encore les Républicains il y a quelques jours.
Il a abandonné les Républicains aujourd'hui.
Aujourd'hui.
C'était un ami de Frédéric Salabalou, qui est un ami de Jacques Chirac. Son grand-père lui-même a fait de la politique. C'est une famille politique. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a su garder un peu son incognito, qui n'a pas tellement fait parler de lui. Par exemple, quand il a remplacé Raymond Soubi auprès de Nicolas Sarkozy, au fond, personne n'a parlé de lui, alors que c'était un conseiller social. Et ça, je crois que ça compte beaucoup dans ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de concertations. Je ne sais pas s'il y aura vraiment des concertations sur les retraites. Enfin bon, là, pour le coup, bon vent. Mais il y aura beaucoup de concertations, beaucoup de rapports avec les syndicats. Et vraisemblablement, ça sert, enfin pour lui, ça lui a servi, à mon avis, d'avoir été le successeur de Raymond Soubi chez Sarkozy.
Catherine, et c'est ça, c'est toute la question aussi, quelle politique fera Jean Castex ? Parce que Emmanuel Macron, quand même, a promis un tournant plus social à la rentrée, ou alors, j'ai mal compris, mais il semblerait, en tout cas, il a aussi pris note des élections municipales et des résultats, avec un Jean Castex donc, qui vient quand même de la droite, est-ce que c'est plus possible d'avancer dans son slack avec un Édouard Philippe ?
Mais Édouard, il vient de la droite, mais je veux dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est toutes les réactions des gens de gauche dans le Gers, le président du Conseil général du Gers, qui est un socialiste, de tous ceux avec qui il a travaillé, le communiste,
de
Saint-Denis, qui disent tous, mais oui, qui disent au contraire que c'est un type très ouvert, qui a une fibre sociale, qui est vraiment, en tous les cas, la droite du Sud-Ouest, qui n'est pas du tout une droite. Il a beau être énarque, qu'il est surtout élu local. Bon, mais surtout aujourd'hui, on se dit, et on va faire une politique de gauche. Alors, j'ai entendu un jeune qui dit qu'il va falloir augmenter les salaires, comme si c'était le gouvernement qui pouvait augmenter les salaires dans les entreprises. Qu'il le fasse à l'hôpital, dans le service public, d'accord, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Et aujourd'hui, on est le pays qui donne le plus de distribution sociale, qui a vraiment ouvert les vannes, pour le chômage partiel, c'est le pays qui en fait le plus et qui donne le plus. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ne veulent pas se remettre au travail. C'est le pays en France où on travaille le moins à longueur de tous les pays de l'OCDE. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être socialiste, faire une politique sociale ? Si ce n'est qu'augmenter les impôts pour les riches. Bon, or, c'est ça, être social aujourd'hui, être socialiste. Or, vous voyez que Macron, président Macron, dans l'interview qu'il donne aujourd'hui, il dit les impôts, on ne les augmentera pas. Donc, on n'augmentera pas l'impôt des riches. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui s'entendre on va réformer avec les partenaires sociaux. Mais comment, moi je voudrais bien voir les têtes-à-têtes entre Laurent Berger et le nouveau Premier ministre. Là, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors, Frédéric Dabi et Mickaël.
La remarque de Catherine est tout à fait pertinente. Jamais dans nos enquêtes, ou très rarement, on nous dit politique de gauche ou politique de droite. Les Français sont sur une logique de résultats. Et ce n'est pas parce que Jean Castex est un élu de droite qu'il va occuper pleinement l'espace de droite qu'occupait très fortement Édouard Philippe. Il peut créer même une ouverture, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vrai que là où il peut y avoir une incompréhension, c'est que c'est plutôt l'espace de gauche d'Emmanuel Macron qui est béant, mais qui n'est pas incarné.
Et voilà, Mickaël Darmon. Et puis, on est quand même au lendemain des municipales, et on se dit aussi qui pourrait incarner l'écologie. En tout cas, dans ce Premier ministre, la fibre écolo, elle n'est pas hyper omniprésente.
Pour l'instant, le gouvernement va être en cours de formation.
Bien sûr, mais
évidemment, lui, déjà.
D'abord,
on va voir déjà quelle sera la réelle marge de manœuvre de Jean Castex, parce que Jean Castex est là pour que Emmanuel Macron prenne le pouvoir. C'est lui qui va gouverner.
Retrouve la lumière.
Quand il dit une nouvelle étape est en train de s'ouvrir...
Emmanuel Macron ou l'un exécutant.
C'est tout simplement la nouvelle étape qu'évoque Jean Castex, c'est la campagne présidentielle de 2022. C'est le fait que Emmanuel Macron doit réembarquer les Français, doit... D'ailleurs, quand on l'avait rencontré il y a quelques jours avec quelques confrères, il avait dit « je vais parler plus, je vais mettre en avant », parce qu'effectivement, le président est toujours responsable. Donc, effectivement, le profil de Jean Castex, qui est une sorte d'exécutant d'en bas, va permettre quand même de donner la possibilité au président de Macron de faire du Macron. Tout simplement parce qu'il a cette prise de risque qu'il aime bien d'ailleurs prendre en général, qui consiste à revenir devant les Français, reposer un projet et tout simplement tenter d'être réélu.
Michel Cotta. Michel Cotta, dans une seconde, promis. Évidemment, les grandes voix continuent jusqu'à 19h. On a le temps d'aller à la fois sur les objectifs de Jean Castex et puis aussi sur ce gouvernement qui pourrait être peut-être connu dès dimanche. Mickaël Darmon, vous nous direz si vous avez des infos là-dessus. En tout cas, il faut aller vite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix autour de Nathalie Lévy jusqu'à 19h, Catherine et Michel Cotta, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Voilà, Édouard Philippe a quitté Matignon. Désormais, Jean Castex est le nouveau locataire, ce haut fonctionnaire de droite, maire Les Républicains de Prades dans les Pyrénées-Orientales, et proche de Nicolas Sarkozy. Michel Cotta, on a brossé un peu son portrait, ses objectifs, on le sait, compte tenu de la crise, ils sont bien sûr sur le plan économique majeur. Homme de droite pour la gauche, technocrate pour la droite aussi.
Oui, la droite est quand même, doit être quand même un peu embarrassée. Donc, effectivement. Non, mais il y a deux choses, je crois, quand même à noter. C'est un peu dans ce que disait Michael Darmon. C'est un, c'est un secrétaire général de l'Élysée. Voilà, il s'agit d'un secrétaire général de l'Élysée. Ça fait des années, au fond, qu'il y a des récompenses à réforme. Pourquoi est-ce qu'il faut un duel, un duo entre Premier ministre et Président de la République? Beaucoup de commissions de concertation et politique ont conclu, d'ailleurs, que finalement, il fallait... Alors, c'est la première étape, au fond, de disparition d'un Premier ministre et d'un secrétaire général technocrate ouvert, qui connaît bien les problèmes et qui connaît tous les problèmes. Bon. Et puis, deuxièmement, je vais quand même parler de la droite. La droite, c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est quand même le soutien électoral d'Emmanuel Macron. Bien sûr, bien les écologistes ne sont pas encore, et je ne suppose pas qu'ils ne deviendront vraiment le soutien. La gauche, Emmanuel Macron pourrait faire les pieds au mur, et d'une certaine façon, comme dit Catherine, il a fait le maximum, mais c'est, il ne ralliera jamais la gauche. Donc, il ne fallait quand même pas perdre la droite. Toute la difficulté, pour lui, sans doute, a été de faire un remaniement en quittant Édouard Philippe et de retrouver quelqu'un qui, quand même, l'assurait sur la droite.
Dans cette continuité. Catherine ?
Oui, quand on dit il est de droite, moi je crois que ceux qui ont travaillé avec lui et les ministres récemment disent qu'il a cette caractéristique, peut-être de droite, d'avoir une autorité naturelle, ce fluide de l'autorité dont parlait De Gaulle. Et c'est sûrement de cela qu'a besoin Emmanuel Macron. Parce que Édouard Philippe, son succès, c'est que non seulement il s'est imposé avec cette autorité naturelle, mais peu à peu il s'est imposé qu'il a créé une marque, un style. Et c'est ce que les Français aimaient. C'est à la fois une allure, un style. Il a été pendant cette crise du confinement comme un tuteur, la force vers laquelle les Français attendaient. Donc, le président s'en sépare parce qu'il lui a pris la lumière et que lui, il a envie de retrouver la lumière avant la présidentielle. Donc, il choisit un homme de l'ombre qui aime l'ombre. Mais vous ne savez jamais comment il sera pas secrétaire général, il sera Premier ministre. Et on va voir comment il va faire au Parlement, s'il va être bon dans les réponses aux questions d'actualité, s'il va s'imposer comme chef de la majorité, puisqu'il a démissionné des Républicains. Je veux dire, on ne sait pas comment quelqu'un... Non. C'était comme... voilà,
mais
ce qu'il va devenir.
Je n'ai pas dit qu'il le serait comme ça toute sa vie, mais en tout cas, ce que veut Emmanuel Macron dans l'état actuel des choses, c'est d'avoir pas un Premier ministre. Voilà. Pas seulement qu'il en fait mais qu'il soit en divergence par certains côtés. Or, il y a des divergences, Michael Darmon l'a dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de divergences qui sont restées discrètes parce que les deux ont joué le jeu. Mais manifestement, Emmanuel Macron ne veut plus de divergences.
Je pense que beaucoup de Français vont poser la question suivante. Que reprochait-on à Édouard Philippe. Ce que dit Catherine est extrêmement juste. On en a encore parlé, Nathalie, avant-hier ici, sur cette image d'Édouard Philippe, cet état de grâce qu'il a connu pendant la crise, avec, bien sûr, comme par le passé, une popularité en décalque avec celle d'Emmanuel Macron. C'est classique entre un président et un Premier ministre, mais aussi une image autonome des attributs présidentiels sur la gestion de la crise. On a parlé de leadership, il était sur le pont, il était là quand Emmanuel Macron apparaissait lointain avec une parole de plus en plus démonétisée. Et puis, ce style Édouard Philippe, j'avais utilisé un oxymore de Giscard sympa, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine raideur, mais qui apparaît extrêmement proche, qui apparaît empathique, qui parlerait un peu comme un rocardien. On aimait bien ses lapsus, on aimait bien sa véritable sincérité. Il quitte l'hôtel Matignon. Il quitte l'hôtel Matignon avec une popularité quasi jamais vue. Ouais. Seul sur l'historique du baromètre IFOP JDD, François Fillon avait fait mieux.
On se retrouve dans un instant. Michael Darmon, est-ce que vous commencez à avoir des infos sur le remaniement et sur la composition du nouveau gouvernement? Voilà, vous pouvez nous livrer ça dans un instant?
Non, c'est du teasing.
À tout de suite, les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Catherine Ney, Michel Cotta, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Alors après la passation, évidemment, il y a la question du gouvernement. Qui, autour de Jean Castex, un gouvernement qui probablement sera connu dans les prochains jours, peut-être début de semaine, toujours est-il qu'il faut sans doute aller vite, Mickaël Darmon, avec une construction, avec des grands pôles apparemment, un ministre, une mission. C'est ce qui se décide.
Alors c'est ce qui se dit depuis quelques semaines, quelques mois. Puis c'est un petit peu cette arlésienne hein, de redéfinir les périmètres des ministères selon des pôles qui seraient cohérents ou en synergie. Cette fois-ci, on entend effectivement encore cette envie. On entend également la possibilité qu'il y ait des commissaires qui viennent avec une mission bien particulière. Ça, c'est expliqué également Emmanuel Macron il y a quelques jours en disant qu'au fond, le fait que les digues budgétaires aient sauté inverse la donne sur la réforme. Maintenant, avec la réforme, on va pouvoir mettre de l'argent dès le départ et faire en sorte que quelqu'un derrière soit dans le suivi de cette mission. Donc on verra, ça permettra aussi d'apporter des personnalités différentes. Donc on verra bien.
Au petit jeu des personnalités, pour le reste, c'est ça.
Oui,
c'est
ce que j'allais vous dire. Oui, voilà. Pour le reste, vous avez toujours à la fois le nom des chaises jeu des chaises musicales. Donc, est-ce qu'il y a un déplacement d'un ministère à un autre ? On sait que, par exemple, Gérald Darmanin a fait savoir qu'il voulait quitter le budget, faire autre chose, peser même. Donc, on parle pour lui d'un grand pôle affaires sociales et affaires et travail. Mais on parle aussi de lui pour la défense. Voilà, on sait que Florence Parly pourrait peut-être aussi bouger. On sait que d'autres attendent de prendre la place de leur petit camarade, notamment du côté de la place Beauvau. Donc on verra.
Puis il y a une grande question autour du ministère de l'écologie, voilà, parce qu'il y a une grosse attente autour de ce ministère compte tenu du résultat des municipales.
Voilà. Et là, on parle à la fois Pascal Canfin, à la fois donc de Madame Touyana qui est la vice-présidente
de la convention citoyenne,
qui a fait toute la COP21, qui est une personnalité incontesté dans le monde de l'environnement. On verra si effectivement il s'avère. Il y a aussi une demande apparemment, d'aller recruter des femmes. On entend également de la diversité. Donc il y a quelques personnalités qui sont pressenties. On verra si effectivement elles arrivent au gouvernement. Donc commence maintenant la période la plus compliquée et celle qui fait en général éclater les délais, puisque l'Élysée a dit on essaye pour mercredi prochain, pour mercredi, mais il y aura peut-être du retard.
Évidemment. Allez, un mot chacun pour conclure. Michel Cotta.
La difficulté, ça va être de relier les résultats des élections municipales, le discours qu'a fait à ses 150 jeunes écologistes Emmanuel Macron et son interview où il met en premier les problèmes économiques et sociaux.
C'est ça.
Donc tout ça, c'est un équilibre subtil qu'il n'est pas sûr de trouver.
Catherine Ney.
Oui. Non, mais les Français, d'abord, on va voir comment ils vont digérer ce changement. Hein. Bon, et puis, il y a une attente formidable des écologistes. Par exemple, le maire de Bordeaux, qui vient de prendre possession du truc, décrète l'état d'urgence climatique à Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On arrête la pluie, on arrête la sécheresse, il ne se passe plus. C'est quoi l'état d'urgence climatique, voyez ? Donc, avec les écologistes, on n'en fera jamais assez. Donc, quelle langue... Là, maintenant, il refile la patate chaude au nouveau Premier ministre, et on lui souhaite, soyez bon et bon vent, parce que ça va être très difficile de conjuguer tout ça, voyez.
Sans parler des plans sociaux qui vont tomber.
Oui, c'est ça, c'est vraiment les dossiers chauds, évidemment, pour Jean Castex, Frédéric Dabi, la politique qu'il devra mener avec tout ce qui a été dit par Emmanuel Macron sur la crise. Et là, il s'y attaque, ça y est.
Oui, c'est vrai que ce matin, dans l'interview dans la PQR, il y avait une sorte de feuille de route, la restauration de l'hôpital public, les mesures vers sur la question de la dépendance, sur la question des jeunes. On est bien d'accord. Et c'est vrai que
ça, Edouard Philippe pouvait le faire.
Justement, moi, je comprends complètement ce qui est dit et je le martèle. Il y a un gros travail de pédagogie qu'il faudra faire sur à quoi bon avoir sorti Edouard Philippe, pour quel chemin, pour quelle étape, parce qu'il n'y a pas de sensibilité écologique particulière s'agissant de Jean Castex, même si on l'a vu dans notre sondage IFOP, La Tribune, en période de crise, c'est la question de l'emploi, la question de la relance, la question de la souveraineté économique qui va être centrale dans les attentes des Français. Alors, la question du casting importe peu par rapport à la question des résultats, mais clairement, Emmanuel Macron veut créer un choc psychologique, en plus de toutes les difficultés que Mickaël Darmon a rappelées, la question de la parité, et puis tout passer par le tamis des patrimoines, des déclarations de patrimoine des futurs impétrants.
Un mot encore, juste parce qu'il y a cette mission qui a été confiée à Édouard Philippe, qui nous a laissé, enfin Michel, vous nous dites...
Sceptique.
Vous sceptique, hein, oui. Michael Darmon, pareil, est-ce qu'il est en mesure de refuser?
Non, mais enfin, ça correspond pas à grand chose. Hein.
Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Parce que moi, j'ai pas encore réussi à comprendre.
Mais rien du tout, parce qu'en fait, en réalité, les marcheurs, notamment, surtout venant du centre-gauche, n'ont jamais supporté Édouard Philippe. Dans quelle mesure il peut les rassembler et au nom de quoi? Donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas un licenciement. C'est une manière de dire qu'on continue à rester en contact.
C'est aussi de garder sous la houlette, aussi dans le
d'ailleurs,
giron.
C'est très dangereux, oui, parce que s'il organise des réunions avec différentes parties du... On dira, mais il se fait sa clientèle.
Mais bien sûr.
Il roule pour lui, vous voyez, ça va être très difficile.
D'habitude, le Premier ministre, en dessous de la Ve République, pardon, le Premier ministre est le chef de la majorité. Oui. Donc, il n'est plus Premier ministre. Ouais. Donc, c'est difficile de lui demander d'être le chef
Et puis avoir utilisé le terme de reconstruction de la majorité en disant sur l'intériorisation de la situation catastrophique post-municipale.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup les Grandes Voix pour cette édition spéciale. Merci d'avoir commenté ces événements avec nous.
Europe 1.
À suivre Nathalie Lévy avec évidemment un journal complet, celui de Sébastien Krebs à 19h pour revenir sur cette passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite du programme, Nathalie?
Après 19h, on continue de vous présenter le nouveau Premier ministre Jean Castex. Il a été 2 ans secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Franck Louvrier, qui s'occupait de la communication de l'ancien président, l'a bien connu. Il est mon invité. C'est l'actuel maire Les Républicains de la Baule. Et il répond à mes questions dans 20 minutes sur Europe 1. À 19h30, ça y est, on passe en mode week-end. On sera dans le Nord pour une balade déconfinée de Lionel Gougelot. Et puis des idées de sortie. En veux-tu, en voilà pour ce début de vacances pour certains. Allez, 39-21 si vous
et
souhaitez intervenir.
Aussi, Nathalie.
Mais bien sûr,
on est vendredi.
Bah, je peux pas tout
on
dire.
On finit en beauté.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe.
Il dit vouloir ouvrir une nouvelle étape du quinquennat. Les premiers mots de Jean Castex, nouveau Premier ministre. Il s'est installé à Matignon, passation terminée. Édouard Philippe est parti il y a quelques minutes.
Et maintenant, quel gouvernement et pour quelle priorité l'éclairage à venir de Jean-Rémy Baudeau?
L'un des chantiers les plus délicats sera celui des retraites. Emmanuel Macron veut relancer la réforme. Les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille.
Nous irons aussi dans le fief de Jean Castex, dans les Pyrénées-Orientales.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, c'est les vacances qui commencent, direction le sud.
Les aires d'autoroute sont prêtes à gérer affluence et consignes sanitaires.
Et puis demain dans le monde, pendant que la planète regarde l'épidémie, l'Amazonie continue de brûler en silence.
Et du côté du ciel, Anissa.
Le retour du soleil demain pour ce premier week-end des vacances d'été avec une hausse des températures sur la moitié sud. Encore un peu de patience dans le nord-ouest avec des averses. Demain matin, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Édouard Philippe a donc passé la main. Il vient de quitter Matignon il y a quelques minutes après 3 ans à la tête du gouvernement. Et c'est donc Jean Castex qui s'installe. Claudia Bertram, vous êtes sur place. La passation a été courte, sans poignée de main. Covid oblige, mais avec beaucoup de compliments entre les deux hommes.
Oui, après cette entretenue en tête-à-tête, un long moment à l'intérieur de l'hôtel de Matignon, l'ancien et le nouveau Premier ministre se sont affichés souriants l'un à côté de l'autre. Édouard Philippe, qui a d'abord pris la parole, s'est montré confiant dans les capacités de son successeur.
Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est une charge assez lourde, mais connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que vous serez face à des décisions qui sont parfois difficiles. Prendre les bonnes décisions.
Édouard Philippe longuement applaudi après son discours. C'est même lui qui a dû mettre fin aux applaudissements en plaisantant pour laisser le nouveau Premier ministre prendre la parole. Jean Castex, qui s'est dit conscient de la tâche qui l'attend.
Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. Elle est très largement dictée par un contexte pesant. La crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle est déjà là.
Jean Castex qui a salué le bilan de ses 3 ans d'Édouard Philippe à Matignon. Édouard Philippe qui a quitté la cour de Matignon à pied où des applaudissements nourris ont une nouvelle fois retenti.
Claudia Bertram en direct de Matignon ce soir pour Europe 1.
Alors Jean Castex, le nouveau Premier ministre, a 55 ans, c'est un haut fonctionnaire. Il a déjà travaillé dans le passé pour Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Et ces derniers mois, Emmanuel Macron l'avait chargé d'établir la stratégie du déconfinement.
Et c'est aussi un élu local. Nous sommes ce soir dans son fief, dans les Pyrénées-Orientales, avec notre correspondant Benjamin Peter. Benjamin, vous êtes à Prades, la commune où il est visiblement un maire très apprécié.
Oui, ici où il a été triomphalement réélu avec plus de 75% des voix au premier tour. Beaucoup s'y attendaient, ou du moins l'espéraient, comme Marie-Jeanne, qui espère qu'il pourra apaiser le pays.
Oh là là, ému. Je le connais bien, monsieur Castex. C'est un homme de confiance. Mais ici, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime.
Qu'est-ce qu'il peut apporter?
Eh bien, je pense déjà beaucoup d'entente. Parce que les Français sont divisés. Il peut réunir.
À la mairie, c'est son premier adjoint, Yves Delcor, qui devrait lui succéder. Pour lui, c'est son empathie qui peut faire la différence.
Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais avoir Jean Castex, le Premier ministre, comme conseiller municipal. C'est du luxe. La seule chose, c'est que c'est le début du mandat, c'est un peu difficile. Alors j'espère que dans 2 ans, tout ça reviendra à la normale. C'est quelqu'un, il vous rencontre, il vous salue, il sait comment vous vous appelez. Et ça, régulièrement, dans tous les quartiers de la ville. Il est arrivé en 2008, personne ne le connaissait, même moi, je ne le qu'on ne sait pas. Et il m'a séduit.
Et d'ailleurs, dans les rues, beaucoup se présentent comme des copains du nouveau Premier ministre et se disent partant pour prêter Jean Castex à Emmanuel Macron, mais pour 2 ans, pas plus, pour qu'à l'issue du quinquennat, il vienne finir son mandat à la mairie de Prades.
Benjamin Peter à Prades, dans les Pyrénées-Orientales.
Alors, quel gouvernement va-t-il maintenant en diriger Jean Castex? On le saura d'ici quelques jours. Jean-Rémy Bodo, quelles sont les priorités?
Eh bien, on a entendu Jean Castex à l'instant. Il parle de cette nouvelle étape du quinquennat, une nouvelle feuille de route qui a été esquissée par Emmanuel Macron ce matin dans la presse. Reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle. Sur la table du Premier ministre à l'hôtel de Matignon, des promesses, des dossiers politiques. Évidemment, la question de la crise sanitaire, la relance économique, le Ségur de l'hôpital, le chômage des jeunes, travailler à une taxe carbone, relancer le dossier des retraites. Tout ça en évitant de mettre les Français dans la rue et sans augmenter les impôts. Pour ce faire, il va devoir constituer une équipe, nouvelle équipe. Tout va se jouer dans les prochains jours. Consultation en vue d'un nouveau gouvernement, vérification des profils et annonce avant mercredi prochain le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe. Les méthodes devront donc être adaptées, a dit Jean Castex ce soir. Phrase un tout petit peu énigmatique mais qui laisse quand même imaginer qu'Emmanuel Macron va lui-même changer de méthode, reprendre la main sur à peu près tout avec un Premier ministre en retrait, plus technicien, plus exécutant. Aujourd'hui, ça n'était peut-être pas qu'un remaniement ministériel, c'était peut-être une nouvelle ère présidentielle qui s'ouvre en France.
Avec un objectif dans 2 ans qui est assez clair. Merci Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1.
Alors vous avez cité le dossier des retraites, ce sera l'un des dossiers les plus délicats. La rentrée, Emmanuel Macron l'a dit clairement, il maintient le cap sur la réforme.
Il l'annonce dans cette interview donc dans la presse régionale ce matin. Il veut relancer la concertation dès cet été sur les retraites, même s'il se dit prêt à des ajustements. Mais clairement, ça bloque déjà du côté des syndicats, Olivier Samin.
Oui, c'est Yves Verrier ce matin qui, sur Europe 1, s'est dit surpris et en colère. Le secrétaire général de FO ne veut pas que la réforme des retraites soit remise sur la table. Pour lui, ce n'est pas la peine de remettre de l'huile sur le feu.
Le président de la République nous dit en plein été, on va remettre sur le tapis le dossier des retraites. On a passé 2 ans et demi de concertation. Il n'a pas réussi ni à expliquer, ni a fortiori à convaincre. Et on risque aujourd'hui de réouvrir de la tension, un conflit social. On n'en a pas besoin en ce moment sur ce dossier-là.
Alors FO fait partie depuis le début des syndicats qui ne veulent pas de la réforme. Mais l'hostilité vient aussi des syndicats qui ont accepté de jouer le jeu. La CFDT, par exemple, qui estime que la priorité des priorités aujourd'hui, ce n'est pas les retraites, c'est l'emploi. Le patronat, lui, n'est pas effrayé à l'idée de redémarrer une concertation sur le sujet dès cet été. S'il le faut, on le fera, dit par exemple le président de la CPME, François Asselin, qui se demande quand même si l'exécutif ne s'engage pas sur un terrain miné.
Derrière une économie qui est en panne, eh bien, il y aura socialement des moments un petit peu compliqués à la rentrée. Rajouter là-dessus un projet de réforme des retraites, c'est un choix politique audacieux. Et là, on peut dire qu'effectivement, ils vont se rajouter certaines difficultés en plus de celles qui existent déjà.
Voilà l'exécutif prévenu. La question est de savoir jusqu'où Emmanuel Macron acceptera d'aller dans la transformation de sa réforme pour vaincre le scepticisme des uns, à défaut de renverser l'hostilité des autres.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Quant à Édouard Philippe, il rentre au Havre où il redeviendra maire ce dimanche.
Et il devra répondre aussi devant la justice sur la gestion de l'épidémie, tout comme les ministres et ex-ministres de la Santé, Olivier Véran et Agnès Buzyn. Tous les trois sont désormais visés par une information judiciaire ouverte aujourd'hui par la Cour de justice de la République. 9 plaintes sur 90 qui ont été reçues, mais 9 plaintes ont été jugées recevables. Elles émanent de particuliers, de médecins ou d'associations.
On revient à l'actualité économique. C'est la crainte d'une nouvelle fermeture fermeture d'usine dans l'automobile.
En Moselle, le groupe Mercedes va vendre le site qui fabrique la Smart à Ambar, usine qui emploie plus de 1400 salariés. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle le constructeur allemand à garder toutes les options ouvertes. Et puis cessez le feu dans la famille de Johnny Hallyday. La guerre de l'héritage prend fin après 2 ans et demi de combats judiciaires. Laetitia annonce avoir trouvé un accord avec la fille du chanteur Laura Smet. David Hallyday se désiste lui aussi de toute action en justice. Tous les deux, on s'en souvient, avaient été écartés de l'héritage de la star.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 19h, les touristes attendus de pied ferme. Mais oui, ça y est, les vacances scolaires commencent ce soir. Nous allons au bord de la Méditerranée.
Et puis demain, dans le monde, la forêt amazonienne continue de brûler.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et les grandes vacances qui commencent, ça y est, ce soir, là, pour 12 millions d'élèves, c'est parti.
Et le top départ enfin d'une saison touristique largement amputée par la crise cette année, d'où l'attente des professionnels, notamment au bord de la Méditerranée. Stéphane Frangy, vous êtes près de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Ça y est, les premiers vacanciers commencent à arriver, avec le sourire, bien sûr.
Ah, difficile d'imaginer les choses autrement quand on est accueilli par le chant des cigales, même si certains sont moins dépaysés que d'autres. C'est le cas de Jean-Luc qui est venu en voisin.
De Vitrolles, pas loin, 35 km. On redécouvre la France. Oui, c'est le circuit court, voilà. Et en plus, ce cadre, tous les mois, on voit Camping Paradis, donc on adore.
Première arrivée, premier servi pour l'heure. Eh bien, il y a l'embarras du choix pour les meilleures places autour de la piscine. Philippe en profite pour patauger avec ses deux filles. Ces vacances ont pour eux une saveur particulière.
On s'est rendu compte après ces derniers événements à quel point la famille était sacrée. Quand on prend le temps avec les enfants et que soi-même en tant qu'adulte on redevient enfant, on reprend vraiment goût à la vie et on a le sourire jusqu'aux oreilles. Donc.
Des clients peu nombreux, mais des clients heureux. Allez, ça satisfait pour l'heure Rosie, la patronne du camping Le Mas.
Ah, ça fait plaisir que les gens soient contents d'arriver, qu'ils aient envie de profiter de notre soleil, de nos cigales, de la mer. Bon, c'est vraiment des vacances, vacances, vacances. Et apparemment bien mérité pour tout le monde.
Car après une période balbutiante pour son activité, depuis la reprise, c'est enfin, elle l'espère, le top départ pour sa saison.
Stéphane Frangy, près de Martigues, pour Europe 1.
Et vous serez nombreux à prendre la route dès ce week-end. Bison futé voix orange. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Demain en France est avec vous. Les aires d'autoroute ont dû s'adapter et être réaménagées pour respecter évidemment les consignes sanitaires.
Exactement, 637, c'est le chiffre du soir, le nombre d'aires de repos sur les 10 000 km de voies rapides et d'autoroutes. La hantise des sociétés qui les gèrent, c'est qu'elles se transforment en clusters pour éviter de gâcher l'été de ces touristes en transhumance. Ont donc été mises en place de nouvelles règles, port du masque conseillé à l'extérieur, mais souvent obligatoire à l'intérieur des stations-service et des restaurants, marquage au sol pour gérer les files d'attente aux caisses, nettoyage drastique et régulier des toilettes très fréquentées en raison des pauses pipi. Les automobilistes qui profitent de ces aires sont accueillis par des salariés qui distribuent pêle-mêle gel hydroalcoolique, nappes en papier pour inciter le pique-nique sur des pelouses qui sont tondues. En revanche, sale temps pour les plus petits qui n'auront pas droit aux animations comme ce circuit de petites voitures fermées près de Toulouse.
Alors voilà ce qui nous attend sur la route lors des pauses. Mais ce qui risque de changer aussi, Jean-Pierre, c'est la nature et l'ampleur du trafic cette année.
Exactement. Nous n'avons plus de repères avec ce corona, concède un responsable de société d'autoroute qui s'interroge. Bison futé va-t-il voir rouge cet été? Le trafic sera-t-il aussi dense que d'habitude à cette époque? Ou sur la 7 à Orange, on voit filer quand même 150 000 voitures par jour. Pas sûr d'atteindre un tel niveau en 2020, même si les Français délaissent le train. Deux fois moins de monde dans les rames en ce moment et plébiscitent la voiture. Les ventes sur le marché de l'occasion explosent avant l'été. La grande incertitude concerne les touristes étrangers. Vont-ils ou non bouder la France? Une clientèle guettée avec beaucoup d'impatience depuis le 1er juillet, jour d'ouverture des frontières, car crucial pour le chiffre d'affaires de ces aires de repos.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet, vous aussi peut-être sur la route des vacances, soyez prudent dans ce cas, on vous embrasse, salut Jean-Pierre.
Et demain dans le monde, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Avec cette crise écologique majeure au Brésil, où la forêt amazonienne, le poumon de la planète, continue de brûler, encore une fois dévastée par des incendies d'une violence et d'une ampleur sans précédent encore cette année.
Oui, et ce sont les images de l'Institut National de Recherche Spatiale qui ont sonné l'alarme. Elles ont été tournées par des caméras thermiques à très haute définition depuis son réseau satellite. Et vu du ciel, eh bien, l'Amazonie est un véritable océan de flammes. 2248 foyers actifs recensés aujourd'hui même. C'est du jamais vu depuis la mise en place du système de surveillance il y a 13 ans. 9000 km² de forêts déboisées. C'est la surface de la Corse. Et puis des centaines de départs de feu chaque jour depuis le début du mois de juin qui marque l'entrée dans la saison sèche. Donc évidemment, une très grosse inquiétude parmi les responsables des associations environnementales qui soulignent que le pire est à venir avec la certitude de voir une accélération des incendies au mois de juillet et au mois d'août.
La déforestation sera plus importante en 2020 qu'elle ne l'a été en 2019. Et il y a une crainte supplémentaire concernant le défrichage et le brûlage des terres qui est désormais réalisé sans le moindre contrôle.
Et oui, parce que dit, il y a plusieurs choses, peut-être. En tout cas, la sécheresse n'est pas la seule raison de ces départs de feu.
Non, malheureusement, la multiplication des incendies est également favorisée par la dérégulation voulue par le président Jair Bolsonaro, qui a levé toute restriction aux pratiques de déforestation par méthode de brûlis. Vous savez, c'est qu'on met le feu pour essayer de... Eh bien, c'est tout ça pour développer l'agriculture, la pâture et les activités minières de l'Amazonie, y compris dans les zones indigènes qui avant étaient protégées. Donc l'essentiel des feux de forêt, aujourd'hui, ce sont des incendies volontaires.
Mmh. Et c'est encore pire que l'année dernière, que l'été dernier. Et la différence, c'est qu'on n'en parle pas du tout cette
Absolument.
Année par rapport à l'année dernière.
Sauf nous.
Merci Didier François.
Merci, c'est grâce à vous donc Didier François. Merci Didier, merci. Et Sébastien, à tout à l'heure, à 19h30 avec de nouvelles infos. Anissa, il fait beau presque partout demain.
Presque. On insiste sur le presque parce que c'est sur le nord-ouest demain qu'une perturbation arrive le matin avec sur les côtes de la Manche, eh bien, un ciel très nuageux et puis de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. En passant par la Normandie, la journée va commencer sous les averses. Demain après-midi, les orages se feront de plus en plus nombreux sur le quart nord-ouest. Prenez vos parapluies, il ne va pas pleuvoir toute la journée mais il va pleuvoir par intermittence. Partout ailleurs, le ciel est dégagé et c'est le grand retour du soleil. Dans le sud, attention, Mistral et Tramontagne qui soufflent de plus en plus fort jusqu'à 90 km/h. Demain matin, les températures sont stationnaires avec 9 degrés à Aurillac, 13 à Bordeaux et Dijon, 15 à Paris, Rennes et Nantes, 19 à Marseille, 21 à Nice. Dans l'après-midi, il fait frais dans le nord avec 17 à Brest et Cherbourg, 21 à La Roche-sur-Yon, 24 à Paris, 25 à Belfort et Pau. Et il fait bien meilleur et le thermomètre remonte sur la moitié sud avec 26 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 27 à Saint-Etienne, 29 à Lyon et 34 à Nîmes. Allez, j'en profite, je prends 20 petites secondes de plus. Voilà, il râle, mais tant pis. C'est la première semaine des vacances pour de nombreux Français qui nous écoutent. Alors à quoi va ressembler cette semaine? Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. L'anticyclone des Açores va venir nous protéger pendant toute la semaine, empêcher ces perturbations océaniques qui nous apportent de la pluie. Donc la semaine prochaine sera une très belle semaine pour quasiment tout le monde.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Vous voyez, le nouveau Premier ministre Jean Castex a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Celui qui s'occupait de la com' de l'ex-président l'a donc bien connu. Franck Louvrier, mon invité, dans deux minutes sur Europe 1, depuis la Baule, à tout de suite.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 à 19h20, Nathalie Lévy. Vous recevez Franck Louvrier, nouveau maire LR de la Baule.
Bonsoir Franck Louvrier.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Franck Louvrier, on vous connaît bien sûr. On va rappeler aussi que vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy et en même temps que Jean Castex, l'actuel donc nouveau Premier ministre, il était alors secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Cette nomination de Jean Castex, d'abord, est-ce qu'elle vous a surpris?
Oui, elle m'a surpris parce que je m'y attendais pas, mais c'est une excellente nouvelle parce qu'au-delà du fait que ce soit un ami, je sais que c'est quelqu'un qui saura répondre aux enjeux du moment. Qui réconcilie d'une certaine façon les antagonismes français entre la haute administration et puis les élus locaux. Je pense qu'il y a une leçon aussi à tirer de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est que les élus locaux ont été très présents et qu'aujourd'hui on rentre dans une crise économique et peut-être sociale. Et c'est vrai que, comme on dit vulgairement, ils cochent toutes les cases.
Alors, il coche les cases. Parlez-nous un peu de lui, Jean Castex. Les Français le connaissent pas, peu, à part Monsieur Déconfinement. Mais du coup, c'est arrivé très tard. Et puis, il a été quand même un peu prolixe pendant cette crise. Qui est-il exactement? Comment va-t-il? Occuper Matignon?
C'est quelqu'un avec qui on passe de bons moments. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a beaucoup d'empathie. Et c'est quelqu'un surtout qui connaît le pays. Il connaît sa respiration, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'est... les difficultés du moment, du quotidien, mais il a aussi la parfaite connaissance de la complexité administrative française. Et donc, c'est vrai qu'il peut vraiment connecter ces deux difficultés du quotidien quand vous gérez le pays.
Est-ce qu'il saura exister ? Pardonnez-moi la question, Franck Louvrier, mais c'est un peu celle qui revient en boucle, parce que Emmanuel Macron, sans doute, peut-être en tout cas, a pu être agacé par les très bons sondages d'Edouard Philippe. Là, de toute évidence, il cherchait un exécutant, il l'a trouvé en la personne de Jean Castex.
L'enjeu, c'est pas d'exister, c'est de faire. Quand on est en crise, et c'est le cas aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir répondre aux difficultés du moment. Je pense qu'avec la présidentialisation du pouvoir et le quinquennat, tout est centralisé à l'Élysée. Donc penser qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir bicéphale, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le Premier ministre est en situation d'être, d'une façon ou d'une autre, la cheville ouvrière du président de la République. Mais il n'y a plus de couple exécutif comme on en parlait auparavant, avant la modification quinquennale. Donc il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, le président de la République a cherché à avoir... d'une certaine façon un concurrent, il cherche surtout à avoir un exécutant. Et c'est vrai qu'il a démontré avec le confinement, mais aussi avec son expérience d'élu local, qu'il savait répondre aux enjeux aussi difficiles qui se posent aujourd'hui dans le pays.
Donc quand, par exemple, du côté des Républicains, on ironise Christian Jacob, notamment, qui dit effectivement ce sera un secrétaire, ni plus ni moins. Et il a des mots très durs, d'ailleurs. Il est très ironique en critiquant Jean Castex. Ça vous choque pas ?
Moi, vous savez, ce qui me plaît d'une certaine façon, c'est qu'en fin de compte, la ressource humaine, on la trouve à droite. C'est que le gouvernement aujourd'hui trouve les bons éléments chez les LR. Et donc ça veut dire vraiment que d'une façon ou d'une autre, la lecture du président de la République, c'est que d'abord que le pays est à droite, c'est la lecture à la suite des élections municipales. Le pays n'est ni en marche ni à gauche, il est à droite. Et que d'une façon ou d'une autre, ceux qui sont les plus efficaces et les plus compétents en la matière, ce sont ceux qui ont notamment rencontré sur leur parcours Nicolas Sarkozy. Je ne parle pas pour moi, mais voilà.
C'est ça ce que j'allais vous dire, j'allais poursuivre dans ce sens-là. Ça y est, la Sarkozy au pouvoir. D'ailleurs, Jean Castex lui a passé un coup de fil à peine installé, à peine nommé. La Sarkozy au pouvoir. Il n'y a plus de doute possible.
Parce que vous savez, il y aura un gouvernement qui sera, j'imagine, avec des tendances et des couleurs politiques différentes. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vrai qu'on peut peut-être rendre hommage à la qualité en matière de ressources humaines de Nicolas Sarkozy. Il sait parfois trouver les bons hommes et les bons éléments, surtout à la bonne place. Donc c'est exactement ça.
Vous ne regrettez pas du tout Édouard Philippe qui a été plébiscité par les Français pendant et après cette crise sanitaire. Édouard Philippe, Jean Castex, on peut imaginer que le changement pour les Français va passer inaperçu ?
Mais Édouard Philippe a échoué politiquement.
Il
a soutenu pendant les élections municipales des candidats En Marche. Aujourd'hui, le résultat est très clair, c'est que les candidats En Marche ont échoué quasiment dans la totalité des campagnes municipales. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal que le président de la République tire les leçons de cet échec et retrouve un autre profil qui puisse à la fois créer un nouveau chemin et incarner une nouvelle politique.
Mais plus à droite alors encore ? Plus à droite encore alors en la personne de Jean Castex ?
Pas plus à droite, mais en tout cas plus adapté sans doute à la réalité du moment.
Et quand on parle de tournant social alors d'Emmanuel Macron pour cette dernière partie du quinquennat, Jean Castex, tournant social, ça sonne pas très bien quand même.
Écoutez, vous n'en savez rien. Moi, je sais que Jean Castex a eu des responsabilités auprès du ministre des Affaires sociales de l'époque, qui était Xavier Bertrand. Il connaît parfaitement bien les organisations syndicales. On verra dans l'exercice de ses responsabilités.
Sur l'aspect écologique des choses, parce que bien sûr, vous avez vu comme nous les résultats de ces municipales, après déjà les européennes, cette convention climat, est-ce qu'il a une appétence, est-ce qu'il a une fibre écolo, Jean Castex, vous qui le connaissez bien, Franck Louvrier ?
Je suis sûr que dans le gouvernement, vous verrez que la priorité environnementale sera pris en compte dans la politique. Alors maintenant, on va regarder d'abord quelle est la feuille de route du chef de l'État, quelle est la composition gouvernementale, et à partir de là, on verra quelle liberté le Premier ministre a pour pouvoir appliquer une politique qui englobe les préoccupations des Français, et notamment les enjeux environnementaux.
La constitution du gouvernement, évidemment, Jean Castex va peut-être donner sa couleur. Est-ce qu'en exécutant, parce que finalement vous le concédez, vous aussi, vous dites que c'est de cela dont a besoin Emmanuel Macron, il n'y a plus de pouvoir bicéphale, il peut influer ?
Oui, je pense qu'on peut quand même influer, mais vous savez, le pouvoir, il est entre les mains du chef de l'État. Donc c'est lui qui crée la dynamique, c'est lui qui crée crée l'impulsion dans le pays. On ne peut pas demander à un Premier ministre, on ne peut pas demander au ministre de diriger le pays. Ce n'est pas le cas. Avec le quinquennat, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en plus quelque chose qui s'est amplifié. Donc il y a une présidentialisation du pouvoir qui est très forte et dont il faut prendre en compte aujourd'hui. Et c'est vrai que le seul responsable devant les Français, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui est élu au suffrage universel.
Alors Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, de plus en plus de personnalités de droite quand même dans ce gouvernement. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous espérez vous-même une place dans ce futur gouvernement. Mais
ah non, pas du tout. Non, surtout pas, parce que moi, je vais vous dire une chose très simple, c'est que je suis installé maire de La Baule dimanche matin.
Oui, je sais bien.
Et je compte bien, bien sûr, être au plus près des Baulois pendant toute cette période. Mais au moins, je saurais me connecter au gouvernement par l'intermédiaire de Jean Castex.
Voilà, évidemment, vous connectez. On va droit vers effectivement une politique de droite avec un gouvernement potentiellement de droite sur des postes clés. On a entendu parler...
En tout cas, la France est à droite. Et ça, c'est une leçon qu'il faut tirer, bien sûr, de la situation des élections municipales.
Juste un mot, quand même, il y a des différences, pardonnez-moi, entre La République En Marche et les Républicains Franck L'Ouvrier. Quelles sont-elles alors aujourd'hui?
Écoutez, aujourd'hui, le président de la République a choisi un Premier ministre qui est de droite. Ça veut dire qu'il a tiré les leçons de la situation du contexte politique. Donc à partir de ce moment-là, il y aura peut-être quelques éléments d'En Marche dans le gouvernement, mais en tout cas, le dirigeant de ce gouvernement, ce sera quelqu'un qui est issu des rangs de la droite.
Merci beaucoup Franck L'Ouvrier d'avoir répondu ce soir sur Europe 1 à mes questions.
Pour votre invitation.
Merci à vous et bien sûr maire Les Républicains de La Baule et donc en place ce week-end. Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy.
On reste ensemble parce que dans quelques instants, ça y est, on passe en mode week-end et on file en balade dans le Nord avec Lionel Gougelot. On vous donne plein d'idées pour cette fin de semaine. Ces vacances qui commencent, les recettes aussi qui vont bien. C'est au 39-21 pour nous rejoindre tout de suite.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Jean Castex veut ouvrir une nouvelle étape du quinquennat et réunir la nation face à la crise. Le nouveau Premier ministre a pris ses quartiers à Matignon. Édouard Philippe a passé la main. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez prendre les bonnes décisions, lui a dit l'ancien Premier ministre. Soyez bon. C'est l'ancien Premier ministre qui devient maire du Havre dimanche. Et il pourrait par la suite devoir s'expliquer devant la justice sur la gestion de l'épidémie, tout comme Olivier Véran et Agnès Buzyn. La Cour de justice de la République ouvre une information judiciaire sur la base de 9 plaintes jugées recevables et qui pointent l'absence d'action face au danger. Dans le reste de l'actualité ce soir, cessez le feu dans la famille Hallyday. La guerre de l'héritage prend fin. Laetitia annonce avoir trouvé un accord avec la fille du chanteur, Laura Smet. Et puis l'inquiétude en Moselle. Mercedes annonce la mise en vente de l'usine qui fabrique la Smart à Ambar. Plus de 1400 salariés sont concernés.
Merci beaucoup Sébastien. L'info revient à 20h hein, sur Europe 1. Merci à vous. Anissa, une perturbation qui nous arrive par l'ouest.
Une petite perturbation. Toute petite perturbation qui arrive par l'océan effectivement et par le nord-ouest demain. D'abord pour toucher les côtes de la Manche et puis dans la journée, cette perturbation va toucher la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Donc vous voyez le quart nord-ouest du pays avec des averses dans la journée, un ciel gris. Mais partout ailleurs, c'est l'été qui signe bien son grand retour avec un soleil généreux partout et des températures en hausse sur la moitié sud. Nous aurons 26 degrés à Clermont-Ferrand et Bordeaux demain après-midi, 28 à Strasbourg et Nice, 29 à Lyon, 34 à Nîmes et le matin, ça se maintient avec 10 à 15 degrés en moyenne, 21 au bord de la Méditerranée.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, c'est vendredi, un vendredi particulier avant les grandes vacances. On passe en mode week-end et on vous donne plein d'idées de sorties en France et notre dernière balade ce soir nous amène dans le Nord, Nathalie.
Oui, dans le Nord ou le Nord qui vient à nous avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Nathalie.
Un petit bout du Nord ici même dans ce studio. Vous êtes correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Alors où est-ce que vous nous emmenez ce soir?
Sur l'immense plage de Lefrancouc, mer du Nord. Nous sommes ici entre Dunkerque et Zuidcoote et sur cette plage trône depuis 5 ans, Nathalie, le blockhaus miroir. C'est un blockhaus allemand de la Seconde Guerre mondiale qui est recouvert de milliers de morceaux de miroirs. Une mosaïque qui reflète le ciel, le soleil, le sable et la mer. En fait, c'est l'installation d'un artiste originaire de la région. Il s'appelle Bertrand Seguin, mais son nom d'artiste, c'est Anonyme. Et il nous offre une œuvre fascinante à travers le vestige d'une époque sombre.
Moi, ce que je voulais vraiment dans ce projet, c'était que les gens se réapproprient la mémoire, en fait, ce qui s'est passé sur le territoire. Un blockhaus, c'est pas un objet neutre, quoi. Il s'est passé des choses ici. Et pour moi, je voulais vraiment remettre en lumière ce passé, que les gens se réapproprient cette histoire, cette mémoire. C'est une sorte de devoir de mémoire, en fait, hein. Pour éclairer le présent, pour pas qu'on reproduise les mêmes erreurs funestes du passé.
Et ça n'a pas loupé, ce blockhaus est devenu une véritable attraction culturelle et touristique.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai rencontré Bertrand cette semaine au pied de ce blockhaus, on a croisé des promeneurs subjugués par cette mosaïque de miroirs et ses milliers de reflets sur la plage.
C'est un peu les mille facettes du passé et de l'avenir. Et quand on s'approche, c'est les mille facettes de nous. Ça porte à réflexion.
Et vraiment, on est scotché parce que c'est original, en fait. Voilà, et puis c'est bien, je trouve.
Et puis c'est joli en plus, c'est rigolo. Ça brille de mille feux, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est une réussite.
Ah, c'est une réussite, mais cette installation, il en a fallu du temps et un travail titanesque.
Imaginez, Nathalie, 350 mètres carrés d'éclats de miroirs, sans doute le plus grand puzzle du monde pour une véritable explosion de lumière à chaque heure de la journée, et ça, quelle que soit la météo.
Je le considère comme une structure vivante parce qu'en fait, à chaque minute, chaque seconde, ça change d'apparence, ça reflète les nuages, ça reflète le ciel, tous les éléments, la mer quand elle s'y approche. Moi, le moment que je préfère en fait de cette offre, c'est l'été. En fait, c'est vers le mois d'août-septembre. En fait, vous avez le soleil qui se couche, qui est dans le bon angle en fait de la façade maritime. Et là, le blockhaus passe du rouge au rose, au jaune. Enfin, il y a vraiment chaque soir, c'est une nouvelle surprise en fait.
Et ce blockhaus miroir, pour autant, il est devenu très fragile.
Bah oui, forcément. Exposé aux tempêtes, la mosaïque s'abîme. Tous les ans, Bertrand doit changer un tiers des miroirs, ce qui lui demande des centaines d'heures de travail. Alors, faute de subvention, puisque à l'époque, il a investi l'endroit de façon un peu clandestine, hein, et bien, il n'a plus vraiment les moyens d'entretenir son œuvre. Il était sur le point de tout démonter quand il a reçu le soutien de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. On devrait donc pouvoir trouver une solution pour restaurer et consolider ce blockhaus miroir pour qu'il s'inscrive définitivement au patrimoine culturel régional. Et puis encore un tout petit mot, Nathalie, pour vous signaler un autre projet de Bertrand Seguin. On est toujours dans cette démarche de land art, hein, non pas le street art, mais le land art. Il travaille actuellement à la végétalisation d'une station essence désaffectée. On a hâte de voir le résultat.
Ah bah voilà, il faut aller dans le nord, donc effectivement, il y a des pépites. Merci beaucoup Lionel Gougelot, merci à vous. On passe à la musique avec Angèle Châtelier dans ce studio.
Bonsoir Angèle. Nathalie.
Alors, il faut de la musique pour se préparer à l'été, aux vacances. C'est absolument indispensable. Des sorties, il y en a plein cette semaine.
Et oui, à commencer par la chanteuse Louane qui dévoile aujourd'hui Donne-moi ton cœur, son nouveau single. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Un titre écrit par le rappeur Damso, moins pop qu'à son habitude, plus électro, on l'entend. Alors Louane était discrète depuis 2 ans, préférant se consacrer à sa vie privée. Mais ce titre signe son retour et un nouvel album est prévu pour l'automne.
Et puis une autre chanteuse française dans les nouveautés de la semaine.
Oui, Pauline Croz, on la connaît pour Thébo, son album de Bossa Nova aussi. Elle revient avec le titre Le Monde.
Mon dos se détend encore un peu. Je prends tendrement mon amour.
Chanson qu'elle a commencé à accoucher il y a 6 mois, et sa voix, elle l'a enregistrée en plein confinement dans son grenier, micro dans un placard avec des couvertures pour isoler le son. Chanson dont elle m'a raconté l'histoire.
Je voulais qu'il y ait une couleur un petit peu soul, un peu funk. Accord de base, je suis partie d'un accord d'un titre que j'aime beaucoup, Saturday Night de Olivier Cheatham. C'est l'histoire d'une femme qui est dans une sorte d'insouciance et de jouissance du moment. J'espère que c'est une chanson qui peut permettre de s'apaiser par rapport au futur, de profiter des petits plaisirs du présent qui sont ceux qu'on peut le plus finalement savourer et toucher. Tendrement.
Et depuis 3 ans. Les artistes de la nouvelle scène française reprennent des chansons de vacances aussi. Angèle, dans la playlist Souvenirs d'été.
Produite par la plateforme de streaming Deezer, on a déjà pu entendre Thérapie Taxi reprendre Aline de Christophe, Angèle réinterpréter la Madrague. Et cette année, on retrouve Iseult qui revisite Téléphone en version électro plus mélancolique. Je voulais te foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés.
Je ne demandais pas si on préfère l'original ou...
Vous avez le droit de préférer l'original. Voilà, donc c'était Iseult. La talentueuse Pomme s'attaque à Holidays. C'est la sou au regretté Bill Withers sur Ain't No Sunshine. C'est every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no more. Anytime she goes away. Vous préférez, visiblement.
Bah, on est plus conforme à l'original, alors on dit qu'on est moins dérouté.
C'est
peut-être.
Exactement. Et enfin,
c'est politique.
Pour danser pendant toutes les vacances, le groupe d'électro Bon Entendeur s'est attaqué à Charles Trenet et sa chanson Route Nationale 7.
C'est osé. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait Paris, Avignon, Faubourg, Valence. Et là, mon lieu de Saint-Paul-de-Vence, on chante en fête. Fallait-il vraiment essayer?
Chacun son avis.
Vous voyez danser
les
là-dessus?
Goûts, les couleurs.
Vous voyez danser là-dessus?
Pas vraiment, mais on peut aimer.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Angèle, pour ces pépites. En tout cas, merci à vous. Diane Chénouda est avec nous également ce soir.
Bonsoir Nathalie.
Diane, toujours un
bonsoir
plaisir
Anissa,
de vous voir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Diane. Alors, Diane, du côté des expos. Qu'avons-nous de vraiment formidable là pour ce week-end et pour cet été?
Écoutez, moi Nathalie, je vous emmène en Normandie ce week-end pour le festival Normandie Impressionniste. Ça commence demain, ça dure tout l'été et même tout l'automne. C'est une série d'expositions un peu partout en Normandie, bien évidemment. Alors on sait que Monet, Pissarro, Sisley ont révélé la région dans toutes ses couleurs, sous toutes ses lumières, ses sensations. Là, le festival montre à quel point les peintres du plein air ont saisi leur époque. Là, le festival montre en effet cela. Un exemple au Havre, on en prend plein la vue au musée d'art moderne avec l'expo Les Nuits électriques.
Décidément le Havre. Hein.
Décidément le Havre, je sais. Je me suis rendu compte du côté subliminal ce soir. Monet, Pissarro, Bonnard explorent l'arrivée de l'électricité dans les villes. Et puis à Rouen, eh bien, ne manquez pas la cathédrale de Monet en version XXL. On verra défiler en images une énorme fresque contemporaine et bien qui rendra hommage évidemment à la fabuleuse série des cathédrales de Monet.
Alors voilà, ça c'est pour la région, les régions et dans la capitale à Paris, Diane.
Alors là, franchement, là, les grands musées ont rouvert, ou presque, festival, on attend le Louvre lundi, mais ouais. C'est un festival avec des grandes expos. Une exposition à hauteur d'enfant qui adore les monstres, on le sait. Ça se passe au musée d'Orsay avec les sculptures et les dessins insolites de Léopold Chauveau. Alors, pas vraiment connu grand public, c'était un médecin au départ. Puis il s'est mis à imaginer des créatures étranges qui semblent tout droit sorties de son inconscient. Donc ça, vraiment, vous pouvez y emmener vos enfants au pays des monstres. Et puis revenir avec votre chérie, toujours au musée d'Orsay, pour découvrir alors cette fois un peintre fabuleux du 19e, James Tissot, proche de Degas, voilà, vous ne connaissiez pas.
Non,
on ne le connaît pas. D'accord, et là, c'est l'occasion pour tout le monde, effectivement, de découvrir ce peintre qui est vraiment magique, je dois dire. On connaît tous, en fait, son portrait de femme à l'air mélancolique. Vous savez, qui fait la couverture de poche de Madame Bovary.
C'est lui, absolument.
C'est lui qui a peint ce portrait qui est absolument magnifique, qui est exposé à Orsay. Il peint les femmes et la mode. Il a beaucoup inspiré le cinéma aussi, avec sa Bible illustrée. Figurez-vous que son arche d'alliance a inspiré Spielberg pour Indiana Jones. Oui. Voilà. Et puis alors, je vous conseille alors aussi l'impressionnante reconstitution de Pompéi au Grand Palais. Vraiment, là, c'est à voir en famille. Reconstitution numérique de l'éruption du Vésuve, qui a enseveli Pompéi près de Naples. C'était il y a 2000 ans. Et franchement, Nathalie, on s'y croit.
C'est au Grand Palais.
Oui, c'est au Grand Palais. C'est fabuleux.
Formidable, j'imagine. Vraiment. On a des souvenirs, quand même. Des souvenirs.
Oui, enfin,
on connaît en cas, l'histoire.
Vous y étiez. Ça parle à tout le monde. Et là, c'est comme si on était quasiment, évidemment. C'est très bien fait.
Merci beaucoup Diane.
Avec
merci
plaisir.
Pour ce programme riche avec vous. Dans un merci. Instant, c'est Théophile Cossa qui va nous rejoindre avec d'autres idées pour le week-end. Et puis ensuite, Marion Sauveur, le goût, évidemment, les pépites.
À tout de suite, les papilles, je vais y arriver. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 20h en ce vendredi qui sont déjà bon les vacances. On passe en mode week-end, en mode vacances avec plein d'idées de toute la rédaction d'Europe 1 et dans un instant de très bonnes dégustations, Nathalie.
Et là pour l'instant, Théophile Cossa nous a rejoint. Bonsoir Théo.
Bonsoir Nathalie.
Alors les vacances, on y est presque. Donc dès demain, de la détente, de la légèreté, on en a besoin et vous avez trouvé la bonne idée. Hein.
Allez, on y va, c'est parti, tenez-vous bien.
Tenez-vous bien. Est-ce que vous reconnaissez cette ambiance?
Les pommes d'amour, les choros et les chenilles.
Le grand 8. Ça nous a manqué. On avait presque oublié cette ambiance de fête foraine. Et bah, bonne nouvelle. Elle est de retour dès demain à Paris, au Jardin des Tuileries. Bon, alors, j'y suis passé tout à l'heure. C'était plutôt ambiance gros chantier.
Évidemment,
parce que tous les forains s'activent pour être fin prêts à recevoir le public demain. Et ils l'attendent, ce retour à la fête. Un bol d'air pour beaucoup. Rendez-vous compte, certains d'entre eux n'ont pas travaillé depuis 8 mois. Bah oui, parce que l'hiver, c'est la période creuse pour la profession. La saison devait reprendre en mars, avec notamment l'ouverture de la Foire du Trône. Et patatras, on va pas refaire le film, mais bien sûr, arénette des activités, confinement pour tout le monde. Alors demain, c'est un peu la rentrée des classes pour ces professionnels de la fête. Je me baladais tout à l'heure dans les allées. Alors rassurez-vous, tout y est. La grande roue, la fèche à la ligne, le chamboule-tout, le stand de chichi et de barbe à papa qui colle au doigt.
C'est le meilleur.
Les manèges, les auto-tamponneuses en train d'être soigneusement illustrées par le personnel. J'ai même aperçu Marcel Campion, donc vous voyez, il manque rien. Alors si, bien sûr, le train fantôme, là ça vous pouvez pas le louper avec sa devanture gigantesque en relief sur laquelle se dresse un dragon absolument horrible avec 5 têtes. Et justement, j'ai pu interroger Julien Maurice, sa famille, elle est spécialiste des trains fantômes, ils en ont 7 un peu partout en France. Alors évidemment, il est très pressé de relancer sa machine de terreur et plutôt confiant, il pense que malgré tout, le public, écoutez, sera au rendez-vous.
Je sais que ça ne sera pas comme l'année dernière, je pense que ça va monter crescendo, parce que je me renseigne un peu des restaurants qui sont autour, ils sont tout le temps en augmentation doucement. Les gens ont besoin de s'amuser, ont besoin de voir autre chose. Et nous, on est là pour détendre le public et leur donner de la satisfaction au niveau de la gaieté. C'est quand même formidable. La différence entre une fête foraine et un parc d'attractions, c'est qu'ici, vous rentrez sur la foire, c'est gratuit. Vous regardez les lumières, vous prenez une barbe à papa à 2 euros. Vous avez fait déjà un tour, vous en avez plein les yeux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de formidable en tant que fête foraine. Et je pense que les gens, actuellement, ont besoin de se changer un peu les idées.
Voilà, se changer les idées, en prendre plein les yeux, ça en a envie. Voilà, ce sera donc possible dès demain dans le Jardin des Tuileries et ce jusqu'au 30 août. Alors évidemment, toutes les précautions sanitaires sont prises, du gel, de la distanciation, le personnel masqué, les wagons des manèges nettoyés après chaque utilisation. Et à noter que si vous n'êtes pas parisien, bonne nouvelle, des fêtes foraines rouvrent un peu partout en France, à Montmain près de Rouen, à Reims, à Guingamp, à Oisemont, c'est dans la Somme et j'en oublie. Voilà, une bonne idée Nathalie, pour fêter la fin de l'école ce week-end, en famille avec ses enfants, vous savez, flâner, sentir l'odeur des chichis chauds et puis pourquoi pas dépenser 35 euros au stand de tir à la carabine pour gagner une peluche rose bonbon Made in China.
On sent le vécu, hein.
Ça fait toujours du bien et nos amis les forains, eux, ils en ont bien besoin.
Ouais, voilà, les forains qu'on salue chaleureusement. Alors après la fête foraine, Théo, si on a envie d'un peu de calme, quelle est la bonne idée que vous nous proposez? Peut-être du vert, c'est la couleur du moment.
Ouais, c'est la couleur du moment, c'est une très bonne idée. On va se mettre au vert dans des jardins. Ça fait du bien de respirer un petit peu. Oui, parce que l'événement Jardin Ouvert commence demain en Île-de-France et pour tout l'été jusqu'au 30 août. Et vous savez quoi? C'est inédit. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement. D'habitude, il se tient juste le temps d'un week-end en octobre. Il y a déjà eu 3 éditions. 50 000 curieux avaient fait le déplacement en 2019, c'est pas rien. Il a été créé, en fait, cet événement par la région Île-de-France pour mettre en valeur le patrimoine naturel francilien. On a une image très urbanisée de l'Île-de-France avec plein de buildings partout, etc. Des routes, des échangeurs, de la grisaille. Pas du tout. Figurez-vous que 78% de la superficie de la région est occupée par des espaces naturels, agricoles, forestiers. Alors pour cet été si spécial, la région a décidé d'avancer exceptionnellement l'événement et de le faire durer 2 mois. C'est vrai qu'on a bien besoin de prendre l'air, de se reconnecter un peu avec la nature et puis de reprendre aussi la vie culturelle. Coup de bol, cette opération Jardin Ouvert conjugue les deux, nature et culture. Alors concrètement, on va pouvoir profiter de l'ouverture de lieux qui sont pour la plupart du temps fermés au grand public, des jardins privés, des jardins patrimoniaux, des jardins sur les toits, des fermes urbaines. Et dans ces lieux préservés, vont se tenir des événements culturels, du théâtre, des concerts, des expos. Ce week-end, par exemple, des installations sonores autour des chants d'oiseaux. Tiens, on les entendait tout à l'heure. C'est signé par l'artiste et chercheur Chris
Christian Delescluze. Et ça se passe à la Fondation Good Planet, dans le Bois de Boulogne. Il y a aussi un spectacle musical, par exemple, au jardin du Potager du Roi, vous savez, à Versailles. Un jeu de piste pour découvrir avec ses enfants les différents arbres du parc de l'abbaye de Maubuisson. Ça se passe à Saint-Ouen-l'Aumône. Bref, voilà, vous voyez, il y en a un peu pour tous les goûts. Des forains, des jardins. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer un week-end équilibré et aéré.
Et un début de vacances aussi, si c'est votre cas. Merci beaucoup Théo, Desjardins et des sites comme ça qui méritent vraiment le détour. Merci à vous Théophile Cossard.
Avec plaisir.
Et on est avec Marion Sauveur. Et alors là, faites de la place parce qu'il y en a pour tous les goûts. Alors c'est fruité,
c'est beau, hein,
c'est harmonieux, il y a de la couleur, il y a du goût. Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Et en plus, c'est presque light.
Bon, presque, hein, oui, presque. Noté, hein.
Bienvenue Marion avec votre corbeille de fruits. Évidemment, ça sent bon l'été. Des fruits qu'on peut cuisiner comme ça à toutes les sauces, c'est ce
oui,
que vous nous proposez.
Mais avant de les cuisiner, on va juste croquer dedans, comme
oh
vous venez
là
de faire, Anissa.
Faites-le.
Des fruits cueillis incroyable à maturité qui ont mûri au soleil. C'est là que se développent leurs arômes de sucre. Alors on a sous les yeux une belle corbeille de fruits de l'Association interprofessionnelle des fruits et des légumes frais. Et depuis quelques semaines, on peut donc déguster des fraises qui annoncent l'été, des cerises. Et on commence à avoir les premiers abricots, les premières pêches, les premiers brugnons. Et d'ici quelques semaines, on aura les figues et puis fin août, les mirabelles.
Ah oui.
Alors ces fruits, effectivement, vous pouvez vous
ça
amuser
sent fin,
à les cuisiner. Mais oui, en salade par exemple, les fraises, elles s'accordent très très bien avec un vinaigre balsamique bien sirupeux. Alors si vous êtes gourmand, vous rajoutez un peu de chèvre frais et on n'oublie pas le basilic.
Ah bon, ah bon,
mais oui,
ah ouais,
quand même. Mais oui, en entrée.
Presque en entrée, voilà.
Ah oui, oui, okay, complètement. Alors, vous pouvez aussi faire la version dessert, hein, fraise, vinaigre, oui, basilic en dessert avec un peu de sucre, du coup, mais ça marche très, très bien en entrée. Les pêches aussi en entrée, on peut les agrémenter en salade avec des tomates. L'acidulée de la tomate va très, très bien avec la douceur de la pêche. On ajoute un peu de coriandre, d'estragon.
Ah, ça change, j'aurais pas osé, mais très bien, allons-y.
Et d'ailleurs, la tomate, c'est un fruit, donc
oui,
c'est important
vrai
de
exactement
le noter. Les fruits s'accordent bien avec la viande. C'est surtout pour les amateurs de sucré salé. On a par exemple des cerises qu'on peut faire avec du magret de canard. Une fois que vous avez cuit votre magret, vous faites confire vos cerises dans ce jus de cuisson 5-10 minutes avec un peu de vanille. Et on ajoute un peu de crème pour la gourmandise à la fin. Et vous allez avoir des cerises bien confites avec ce magret, c'est délicieux.
Abricot agneau aussi, ça va très bien ensemble.
C'est très bon, c'est très bon. Et puis les figues, quand ce sera la saison, avec du porc comme un filet mignon, lardé avec du thym et on aura tout le sud dans l'assiette.
Alors du coup, j'ai la bouche pleine, évidemment, c'est pas très chic. Pour les desserts, parce que finalement, on a quand même des fruits, donc allons-y sur le dessert, soyons rigoureux. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Pour aller avec la fête foraine, on peut peut-être manger des glaces, des sorbets.
Vous avez, super, ça.
Vous avez des frutini sous les yeux. Ces fruits entiers remplis de sorbets à partir de pulpe du fruit. Donc, vous avez une tomate, je vous ai parlé de la tomate, qui est donc un fruit. Donc, vous avez une tomate entière. Vous avez des fraises reconstituées, une amande fraîche, une pêche, un abricot. C'est très joli.
C'est très joli,
très,
oui,
très
c'est
bon.
Ça. On peut le faire
très bien
en plus, ça.
Ça, on peut le faire nous-mêmes. C'est un peu plus compliqué puisqu'il faut vraiment givrer les fruits. Par contre, à la maison, on peut faire des sorbets. Et même avec des fraises abîmées, par exemple, vous mixez vos fraises avec un petit peu d'eau, un peu de sucre, hop, au congélateur, dans des moules à glaçons ou dans des moules à glace, et vous les laissez au moins 24 heures et vous aurez un concentré de fruits en bouche. Un autre dessert tout simple à faire, c'est les smoothies.
Ouais. C'est très tendance.
Ouais,
c'est
chouette, alors ça peut se faire avec une base de banane ou de yaourt. Ça va apporter l'onctuosité, puis on mixe le fruit. Oui. C'est délicieux.
Et super facile à faire, ça, en plus.
Complètement. Il suffit de mixer.
Voilà. Alors ça, on aime beaucoup. En plus, c'est très joli hein, sur la table. Ça se présente très bien. Marion, l'incontournable, ce sont les tartes. Et puis, c'est gourmand.
Et oui. Et vous en avez deux sous les yeux.
Oui.
Deux magnifiques tartes. Une tarte aux fraises, une tarte aux framboises de chez Hugo Victor. Framboise vanille, fraise, zeste de citron. On est vraiment dans la gourmandise, dans la simplicité hein, quand on regarde ces tartes sous nos
yeux. Et quand on les mange encore plus.
Mais vous avez un couteau, il faut déguster. Et à la maison, on peut refaire des tartes comme ça. Alors, pour réaliser une belle tarte aux fruits, il faut d'abord réaliser une belle pâte. Hein. Une pâte bien beurrée pour la gourmandise. Alors, l'astuce, c'est d'utiliser du beurre mou et du sucre cristallisé.
Ouais, c'est dur à faire, la pâte
sablée.
Ben,
c'est ça. Il faut prendre son temps, incorporer des œufs, de la farine, de la levure et on laisse surtout reposer au frais pendant au moins une demi-heure. Et une fois que vous avez fait ça, on fait cuire une belle belle crème vanillée, parce qu'il faut une crème entre les deux, hein, pour être bien gourmand. On fait bouillir du lait avec une gousse de vanille. On renverse ce lait sur un mélange sucre, œuf, farine. Et ensuite, on refait chauffer en fouettant bien, hein, parce que pour la crème pâtissière, il faut tenir le coup. Donc, on remue, on fouette, on ne s'arrête pas. Une fois que la crème pâtissière a pris un peu de consistance, eh ben, elle est prête. On la met au frais et ensuite on la met sur cette belle pâte sablée. Alors, vous dégustez ?
C'est extraordinaire, hein. Elle est magnifique.
Il n'y a pas de frangipane. Souvent on a une petite frangipane.
On peut avoir de l'amande sinon.
Oui, c'est vrai.
Là je suis partie sur une idée de vanille.
C'est déjà très gourmand comme ça.
Oui, moi j'aime bien la vanille avec les fruits frais. Ça marche avec tous les fruits, cette recette, avec une pâte sablée, avec une crème pâtissière. Vous pouvez la sortir avec des fraises, des framboises, des abricots, des pêches. Il suffit juste de mettre vos fruits ensuite par-dessus. C'est tout simple.
Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas l'impression de grossir parce qu'il y a des fruits.
C'est ça, ça donne bonne conscience, mais je peux vous dire que c'est calorique. Mais c'est magnifique en tout cas. Merci beaucoup Marion, cette alliance de fruits sur les tables ensoleillées. Écoutez, c'est parfait.
C'est l'été, il faut manger des fruits.
Exactement. Et on vous retrouve demain, évidemment, à partir de 11h sur Europe 1, aux côtés de Laurent Mariotte, évidemment, à partir de lundi. Et puis tout l'été aussi, vous allez vous lever tôt, Marion, 6h50 et 8h40 pour une recette avec des produits du terroir français.
Oui.
Et puis aux côtés de Thierry Dagiral pour une balade gourmande à partir de 19h40.
Oui, c'est ça.
Ça vous fait des belles journées.
On va se balader, on va vous présenter les produits du terroir et puis un produit par jour. Et justement, je vous ai parlé de la tomate.
On saura tout sur la tomate. On saura tout sur la tomate avec vous, Marion Sauveur. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un régal des yeux et des papilles, comme toujours avec vous. Merci Marion. Kevin est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue à vous. Alors, début de vacances pour vous ou week-end donc?
Ah, début de vacances, ça y est. Début de vacances et vacances scolaires, ouais, elles étaient attendues celles-là, parce que c'est vrai que l'année, moi je suis enseignant, donc l'année a été compliquée émotionnellement, donc voilà, on va dire que je crois qu'en 10 ans de carrière, je ne les ai jamais autant attendues.
Oui, alors qu'est-ce que vous nous proposez, par quoi allez-vous commencer, les bonnes idées, votre programme en quelque sorte?
Et ben là, on va déjà profiter un peu des grands-parents pour laisser un peu les enfants, pour pouvoir un peu se retrouver aussi avec ma femme. Alors, on va aller découvrir l'île de Bréa là, pour ce début de vacances.
L'île de Bréa, très bien.
Voilà, et puis ensuite un petit tour dans l'Ariège. On va s'éloigner des foules et on va aller se promener dans la montagne.
Ouais, l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor. Voilà, ça c'est une jolie idée, effectivement. Merci beaucoup, Kevin, et bonnes vacances à vous. Alors...
Et puis, je voulais surtout vous saluer en fait, Nathalie.
Oh, du c'est coup, gentil.
Voilà, pour cette dernière émission, parce que j'ai eu l'occasion, j'ai accroché sur Europe 1, sur ce créneau 18-20 avec vous, et voilà, on a eu l'occasion d'échanger quelques fois, et c'était toujours un plaisir.
Pendant le confinement, entre autres, je me souviens parfaitement.
Voilà, merci. Et du coup, je vous suivrai probablement dans vos nouveaux projets, on verra ça.
Merci beaucoup Kevin, c'est adorable à vous, merci, je suis très touchée par votre petit message, prenez soin de vous, et passez de très belles vacances. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Marion, Théo, je vous vois là. Anissa, bien sûr, je vous embrasse. J'ai envie de vous embrasser, alors je vais embrasser aussi Vincent Thévenet. Donc Anissa, je l'ai dit, à mes côtés un peu plus proches que jamais. Marie-Baptiste, évidemment, Victor Chabert, Valérie Danan, Sébastien Krebs, l'équipe du Grand Journal du Soir qui était là, évidemment, et avec qui on a œuvré toute cette saison. Confinement, pas confinement, en tout cas, on y était. Merci à tous. Le Grand Journal du Soir qui reprend demain avec Wendy Bouchard dès 18h, Bernard Poirette, ça c'est pour la matinale évidemment. Pour écouter Le Monde Changer, vous serez accompagné de Thierry Dagiral dès lundi aux manettes. Et puis moi je vous souhaite un bel été, plein de belles choses pour la suite et une très bonne soirée sur Europe 1.
Et au nom de toute l'équipe qui est en régie réunie ce soir, merci à vous Nathalie, c'était une très belle année.
Merci Europe 1.